Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. En ce mois d'avril 2023, nous allons parler d'actualité, nous allons parler de jeux vidéo, nous allons parler de probablement le GOTY, wink wink, et nous allons aussi parler de nos recommandations culturelles à la fin de l'émission avec, comme d'habitude vous le savez, un entracte ludique qui viendra ponctuer cette belle émission avec des magnifiques critiques de Sens Critique que j'ai pris un plaisir à aller chercher. Je commence donc par saluer mes deux camarades, à commencer par Mikael. Tiens, bonsoir Mikael.
Bonsoir, l'ordre inverse du bonus donc.
Effectivement, je me dis ça change. Si les gens écoutent les deux d'affilée, ils auront peut-être moins le sentiment de redondance. Monique est également là. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir les amis.
Alors, est-ce que c'était un mois de jeux vidéo qui vous a satisfait? On va en parler dans cette émission. Mais avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, je le fais jamais, mais tiens, je me suis dit que là, ça pourrait être bien de le faire au début, puisque voilà, les gens parfois ne restent pas jusqu'à la fin. Remercions nos patriotes qui sont fidèles au rendez-vous sur patreon.com/radiolibrius, qui nous donnent de l'argent, des sous, pour acheter les jeux, pour acheter les manettes, etc., tout le matériel, et qui, en plus, ont droit à des magnifiques bonus, comme celui que nous venons d'enregistrer sur les plus gros pétards mouillés du jeu vidéo. Alors, ne vous attendez pas à une liste exhaustive, hein, comme on le disait dans le bonus.
Oui, c'est pas forcément les plus gros pétards mouillés, mais c'est
oui,
ce qu'on avait
non,
en tête.
C'est nos pétards voilà, mouillés. Ouais.
C'est nos pétards mouillés. On a essayé d'être un peu perso là-dessus pour pas ressortir les éternels Watch Dogs et compagnie. Bref, ça va.
Je sais pas ce que t'as avec Watch Dogs, faut savoir.
Mais oui, mais c'est le plus emblématique.
Faut savoir que Calus, c'est le jeu qui ressort systématiquement. Alors que en vrai, quand tu parles de pétard mouillé, je veux pas refaire le bonus, hein, mais Watch Dogs, c'est pas non plus un jeu honteux, quoi.
Non,
c'est
non, pas du
Evolve,
tout.
Quoi.
Non, mais c'est celui qui a cristallisé, je pense, le plus d'attentes. Mais il y a aussi
oui,
tout le truc de, tu vois, il y a le truc de bullshit avec Watch Dogs aussi. Hein. Il y a le trailer bullshit, il y a tout un tas de trucs qui font que.
Mais Az est supérieur sur tous les points.
Ouais.
Ouais.
Mais
bah après, Az, j'avoue, moi, j'avais pas non plus été ambiancé vraiment.
Mais c'était quoi Az? Je me souviens même pas de ce que c'était.
Oh là là, les mecs qui avaient des masques jaunes et qui prenaient de la drogue et en fait, wesh, tu te rendais compte qu'une fois que la drogue allait passer, ben la guerre c'est moche.
Ok.
Non, ça te parle
donc,
pas.
Donc Spec Ops The Line.
Ouais. Mais...
Allez là.
La petite balle gratuite. Comment bien écrit.
C'est vrai que Az, blague à part, c'est vrai que c'est un jeu qui a 3,2 sur Sens Critique. Il n'y en a pas beaucoup.
Ah ouais, ça fait mal au cul. Hein. C'est rare les jeux en dessous de 5. Ah, ils doivent vraiment
être
éclatés.
Il y avait de la coop, ça devait être une révolution graphique et en plus un scénario gros cerveau. Non, franchement, c'était monté comme pas possible. Ça devait être le Halo Killer.
Et
ah ouais.
Et c'était un jeu des développeurs de. Time Splitter, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui s'entendent.
Eh oui, c'est ça que je disais également dans le bonus, il faut s'en souvenir.
Alors, il y a un jeu qui a pour le coup une aura culte.
D'ailleurs, il y a un autre qui m'est revenu là rapidement, il y avait aussi Too Human aussi par les devs de Eternal Darkness.
Alors là, tu sors un truc trop obscur pour moi, je vois pas du tout.
Voilà. Mort noyé.
Les auditeurs sacheront, ils sauront mieux que nous. Bref, à part ça, ça va, vous? L'actualité est bonne de votre côté?
Ça
tout va
bien. Ça va.
Bon, bah écoutez, puisqu'il en est ainsi, je propose qu'on passe tout de suite à la première grosse rubrique de cette émission, à savoir les actualités. Et puis, bah, pour commencer, on va parler des trucs dont tout le monde parle, puisqu'on arrive très prochainement, donc là on est le 24 avril, dans un peu plus de 2 semaines, je dirais 3 semaines, le prochain Zelda sortira et Nintendo a dévoilé la bande-annonce finale il y a quelques jours, 3 minutes 30 je crois, avec du gameplay évidemment, des cinématiques, une belle musique bien épique comme il faut, de quoi rassurer les gens un peu sceptiques ou peut-être pas, puisque visiblement le jeu continue de cristalliser en fait les différentes chapelles qui campent sur leur position. De toute façon, a priori, on se dirige vers la suite directe et totalement assumée de Breath of the Wild. Donc les amateurs seront contents, si je puis dire. Et ceux qui étaient déçus, probablement, ne trouveront pas de quoi se réconcilier avec cette formule. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ils pourront aller se faire, voilà. Hein.
Ils pourront aller se faire griller le cul avec la magnifique cuisine disponible dans le jeu, le système de crafting de nourriture. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes hypé comme jamais ? Mikael, j'imagine que oui.
Oui, évidemment. Après, moi, il y a quand même 2-3 trucs où j'attends de voir, mais honnêtement, je suis totalement enthousiaste. J'attends de voir comment la map va pouvoir se renouveler, étant donné qu'on repart quand même sur les mêmes bases. J'attends de voir est-ce que les véhicules seront réellement aussi moches quand on les fabrique que ce qu'on a pu voir à travers le trailer. Mais je me dis, vu comment c'était un jeu gameplay émergent, friendly, je doute pas qu'ils en feront des bonnes choses. Donc en vrai, non, moi je vais faire mon Yankee, c'est d'ores et déjà signé. Et quand je dis que les gens qui sont un petit peu détracteurs de cette formule Breath of the Wild peuvent aller se faire cuire un œuf, c'est parce que moi, vraiment, enfin, je suis pas du tout un gros fan de Zelda, mais je trouve que Breath of the Wild avait tellement offert un truc ultra marquant, une ode à l'aventure. On avait parlé de son influence il y a quelque temps dans un podcast, en disant que paradoxalement, il avait peut-être pas autant influencé le JV que ce qu'on avait dit, mais le revers de la médaille plutôt cool, c'est le fait que, bah, honnêtement, des expériences à la Breath of the Wild, j'ai joué à Immortal Phoenix Rising, qui a été beaucoup raillé, parce que c'est évidemment le Breath of the Wild du pauvre, mais ça restait sympathique. Mais à part ça, y a rien, quoi. Donc, évidemment, moi, je suis pressé de ouf de pouvoir y toucher.
Oui, bah, comme beaucoup de gens, j'imagine que Monique, on va pas être très original là-dessus, hein.
Ouais, moi, vraiment banalement hypé. J'avoue, mais après, ça me fait ça sur tous les Mario, les Zelda, ils les annoncent, je suis en mode oui, bon, et puis après, je suis là à Day One et je prends beaucoup de plaisir, quoi.
Moi, oui, je pense que c'est un peu, c'est difficile de bouder son plaisir là-dessus et de passer à côté de ce genre de rendez-vous. Pour le coup, je pense que, voilà, Nintendo, sur ce type de jeu-là, fait en sorte que tout le monde puisse s'amuser. Un jeu qui, pour le coup, je suis hypé de ouf, hein, mais je ne sais pas s'il parviendra à convaincre les gens. C'est Final Fantasy XVI qui a, voilà, pareil, entamé sa dernière ligne droite avant sa sortie, qui sort donc le 22 juin prochain, dans un petit peu plus de 2 mois, hein, dans pile.
J'ai l'impression
mois, en fait.
Qu'on en parle tous les mois,
bah,
dans,
oui,
le podcast.
Mais parce que là, ils ont dévoilé 30 minutes de gameplay, donc avec analyse en profondeur du système de combat, un state of play, entièrement dédié au jeu. Donc, ce qui est l'occasion de confirmer que peut-être le jeu sera une exclue temporaire, ce qui est pas officiel, hein, mais en tout cas, vu que la com se dirige vers PlayStation uniquement, bon, on peut s'attendre à ce que le jeu soit exclu PS5 pour au moins 6 mois, puisque là, pour l'instant, il est annoncé que sur cette machine. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez maté ce truc-là ? Moi, je suis toujours aussi chaud comme la braise. Vite fait, hein, pas pour rentrer dans les détails, mais voilà, votre avis. Monique, je crois que tu t'en fous.
Moi, c'est toujours la même chose. Hein.
Mikael, il est toujours chaud, mais qui attend de
moi,
voir.
Moi, c'est toujours, à chaque fois, même sur cette séquence de gameplay, en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, ça a l'air génial, parce que je vois un truc hyper positif, et puis derrière, ils mettent un vieux temps de chargement caché avec un mec qui longe une falaise. Bon, c'est peut-être pas un temps de chargement, il y a eu des débats là-dessus, mais bref, c'est encore pire si c'est pas un temps de chargement planqué. Donc voilà, moi, ça chauffe chaud, froid, mais c'est sûr et certain, c'est pareil, ça va être day one, quoi.
Ouais. Monique, je crois que tu t'en bats les couilles. Hein.
Ouais, un peu, mais après, tu dis, est-ce que t'as des doutes comme quoi le jeu va convaincre, mais ça me paraît évident que c'est un jeu qui va convaincre facilement. Mais
est-ce que c'est le moment où tu rappelles pas ta théorie open world chevalier, Monique ?
Bah ouais, il y a déjà.
C'est pas un open world, hein, pas du tout même.
Oui, non, mais enfin, je dis ça parce qu'on parlait de Elden Ring avec cette théorie, mais.
Non, mais oui, c'est ok, grands espaces chevalier machin, et en plus là, ça a l'air vraiment chevalier, donc. Ça, en plus, il y a le côté un peu cinématique et tout. J'ai du mal à voir. Alors, il y aura des pinailleurs, ça c'est sûr. Les pinailleurs vont pinailler. À voir à quel point ils pinailleront. Mais non, a priori, c'est un jeu qui a tout pour convaincre. Au contraire.
Est-ce que vous voulez le vrai enjeu de ce Final Fantasy et la vraie chose qui est à évaluer sur sa réussite ou pas?
Ah, je sens qu'il va dire un truc méchant. Vas-y.
Non, c'est pas forcément un truc méchant, mais c'est le potentiel de ce Final Fantasy à créer un nouveau Sephiroth, à créer un nouveau Dark Sasuke Avatar Twitter avec son héros. Et je pense qu'il y a un potentiel à Dark Sasuke, un potentiel à Sephiroth, un potentiel à Idol de ce genre de public relativement fort. Et pour moi, c'est aussi comme ça qu'on pourra avoir le succès ou non du jeu.
Non, mais ok, moi je croyais qu'il allait dire une vacherie sur un youtubeur, mais ok. Mais
sinon... Ah, toujours.
Ah non, je...
Ouais, non, moi je pensais
que... Ah non, j'ai aucune idée de ce que tu... Non, pour le coup, mais je suis amour et
j'ai aucune balle, mais de la manière dont tu l'amenais, ça sentait la vacherie. Mais blague à part, en vrai, je pense qu'on a un peu changé d'époque et je suis pas sûr que les gens ils attendent. Je suis pas sûr que les gens ils attendent le chevalier Joker de Final Fantasy.
Parce que le personnage est littéralement le Joker.
Ah.
C'est connu. Hein.
Bah peut-être. Hein.
Non, on verra. Écoute, il y aura peut-être un twist dans le scénar.
J'y pense. Je fais des blagues comme ça à la con, mais c'est vrai qu'en plus le boss de fin de Final Fantasy VI, c'est littéralement Joker en plus.
Ah oui, d'accord. J'ai pas fait le 6, mais si tu le dis.
Ouais, il est connu avec Kafka quand même.
Ah ouais. Bah oui, je vois la gueule en plus du perso. Je viens de checker. Ouais, effectivement. Moi, je suis un peu tiraillé dans la manière dont je découvrirai le jeu, puisqu'il y a évidemment la VO, enfin en tout cas le japonais. Qui naturellement m'attirerait, d'autant plus qu'on s'est lancé depuis 2 mois dans l'apprentissage de la langue, pas à pas et avec beaucoup de motivation, mais des résultats qui sont on va dire à la hauteur de la différence entre ces deux langues. Donc c'est aussi l'occasion de travailler son oreille à la langue, mais c'est aussi que en version anglaise, le personnage pas le personnage principal, mais on va dire l'allié principal du héros, est doublé par l'acteur qui joue The Green Knight dans le film que je surkiffe, et qui joue aussi dans Game of Thrones, je crois. Un acteur anglais qui a une voix vraiment incroyable, ultra grave et particulièrement enveloppante. Donc je sais pas trop dans quelle langue, je pense que ça sera japonais, mais cette petite frustration du doublage. Bref. On va passer à la suite. Puisque...
Attends, juste 2 secondes. Dans les éléments que j'ajoute, dans le fait que le jeu est un succès annoncé.
Garanti, ouais.
C'est effectivement...
Tu mises, vas-y, combien de ventes la première année?
Ah, je pense qu'il fait. Alors attends, exclut PS5. Hein.
Il ouais, faut alors il y a ça, ouais. 15
millions la première année.
15 millions facile. Première année?
Facile.
Ok.
Mais non, mais j'avais oublié la data du. Il y a des acteurs américains connus.
Oh, connu, le mec est anglais et il est pas hyper connu. Hein.
Ah, autant pour moi, j'ai dit américain à la place d'anglais.
oui,
pardonnez-moi.
Non, 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 mais je veux dire, c'est pas des Chris Pratt non plus, quoi.
Le mec, Chris Pratt, tout le monde l'a insulté.
Genre, il a eu un rôle ultra secondaire dans Game of Thrones et comment dire.
J'avais
préparé
la transition du siècle et on a eu rien à foutre.
Non, désolé, j'ai mon truc qui a sauté, je t'entendais plus.
Ah ok.
Tu disais quoi, pardon?
Je disais Chris Pratt, tout le monde l'a insulté dans le film Mario.
Eh ben oui, merci, putain, merci Monique, désolé. Oui, effectivement, en transition parfaite, mon cher ami, pour parler du film Super Mario Bros. Qui explose déjà tous les records, comme je l'écrivais, sur le conducteur. Il n'aura pas fallu plus de 10 jours, en fait, un peu plus d'une semaine, pour que le film, réalisé par le studio Illumination en collaboration avec Nintendo, devienne tout simplement l'adaptation de jeux vidéo la plus rentable de tous les temps, loin devant tout un tas de mauvais souvenirs pour beaucoup, mais aussi devant certains films honorables, dirons-nous, comme Détective Pikachu, qui, au dire des gens qui l'ont apprécié, était très correct.
Ouais. Sonic encore 2, une fois, encore une fois, Mario. Encore une fois, ah pardon, j'allais dire juste encore une fois Mario qui joue au curling sur le grand crâne lisse et chauve de Sonic. Hein.
Ouais, bah oui, mais en même temps, ça ne fait que démontrer la vitalité à la fois commerciale et en même temps culturelle de Mario dans un paysage qui, justement, fait de plus en plus la part belle aux jeux vidéo comme unificateur de différentes générations. Et je pense que Mario était, pour le coup... ça aurait été difficile d'imaginer un échec de ce film, tout du moins sur le plan commercial, sur le plan artistique, ça se discute, mais on va dire que le consensus va plutôt vers c'est un bon film que vers c'est une daube infâme. Donc tant mieux, hein, grand bien lui fasse. Pour l'instant, il est à peu près 600 millions de dollars de recettes au box-office. Il peut très bien aller vers le milliard, a priori, c'est ce qui est prévu. Donc c'est un succès assez retentissant et Nintendo ne va probablement pas s'arrêter là puisque il y a déjà d'autres contenus visuels en préparation avec notamment Nintendo Pictures qui est carrément une branche hein, maintenant de Nintendo qui se charge de développer ce genre de contenu. Voilà. Un avis peut-être sur le film, sur son succès. Mikael, je sais que tu es allé le voir, donc qu'est-ce que tu en as pensé?
Je suis effaré de voir Nintendo proposer un film qui s'adresse aux enfants et où il cède aux sirènes du wokisme, puisque c'est Luigi qu'il faut sauver et pas la princesse Peach. Donc voilà, on change tout. Non, plus sérieusement, un peu osef, hein. Moi j'ai plutôt bien aimé, je trouvais que c'était un feel-good movie. Tu en ressors, t'as vu des scènes qui sont jolies, t'as entendu de la musique entraînante, t'en retiens pas grand-chose, hein, je l'ai déjà oublié, mais en soi, il fait le taf. Donc non, hein, vraiment, merci, au revoir. Quoi.
Ouais, on peut déjà se satisfaire d'un minimum d'exigence. J'ai l'impression que ça devient un minimum, une qualité, enfin on va dire un prérequis pour faire un film adapté de jeux vidéo maintenant. C'est qu'il y ait un minimum de qualité dedans, si je puis dire les choses comme ça.
D'ailleurs, j'y pense en parlant de septième art et de jeux vidéo. D'ailleurs, il y a un nouveau film Resident Evil en animation qui a été annoncé.
Ah oui, Death Island. Je suis turbo chaud. Ça a l'air incroyable.
Voilà. L'occasion toujours de reconseiller le film Vendetta sorti en 2017.
Ouais.
Attends.
Le meilleur contenu Resident Evil sorti cette année-là.
Ah ouais, complètement. Bien meilleur que le jeu sorti cette année-là, le fameux.
Non, bah écoute, je pense qu'il est temps de passer à notre actualité suivante, puisque comme l'a dit Mikael, merci, au revoir, hein, Super Mario Bros. Le film. Je pense que ça mérite pas forcément qu'on disserte pendant 3 heures, il fallait quand même souligner le succès retentissant de cette adaptation. Bref, troisième actu, Street Fighter 6, qui donc est le prochain gros jeu de Capcom après la sortie de Resident Evil 4 Remake ce mois-ci. Le jeu a eu droit à son direct dédié. Capcom a vraiment l'intention de faire oublier le lancement de Street Fighter V, un lancement difficile, on le rappelle, avec des personnages, enfin un contenu relativement maigre. Cette fois, donc, le mode solo sera nommé World Tour, et l'idée c'est de créer son personnage pour visiter des lieux emblématiques de la licence et affronter les 18 personnages disponible au lancement, donc c'est quand même un contenu qui se veut beaucoup plus riche et généreux que le précédent Street Fighter. L'idée de ce mode solo, c'est d'avoir non pas un élément de lore ou de cinématique, mais des éléments de RPG en fait, tout simplement, avec des gains d'expérience pour son avatar, des statistiques et ce genre de choses. Donc Capcom a également communiqué pendant son direct, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, on pourra en discuter après, autour de l'accessibilité de son jeu, notamment autour d'un système de commande un peu particulier, donc basé sur 4 boutons au lieu de les différents combos parfois complexes à exécuter.
Au lieu de 6.
Voilà, au lieu de 6. Et l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour permettre aux joueurs d'envoyer les attaques spéciales et les combos de façon beaucoup plus simple, sans passer par l'enchaînement habituel. 4 personnages sont déjà annoncés en DLC. Le fameux Rachid que tu joues, toi, Monique. Donc, malheureusement.
C'était mon main sur le 5 parce qu'il n'y avait pas Sagat.
Donc là, il faudra attendre l'été pour y jouer avec Rachid.
Ouais, bah à chaque fois qu'ils sortent un Street Fighter, ils enlèvent mes mains. Donc,
nique sa mère.
Bah ouais, ils les foutent en DLC après, quoi.
Ouais, écoute. 3 autres personnages, donc Aki, qui est un nouveau perso, Ed, qui fait son retour, et Akuma. Personnage bien connu des joueurs de Street Fighter. La démo est disponible, j'y pense, sur le PS Store. Elle sort sur Steam et sur le Xbox, je sais pas quoi, dans 2 jours, le 26 avril. Donc, bah, tout le monde peut s'y essayer. Je pense que c'est, si vous avez une curiosité pour cette licence-là, ça peut être intéressant de se lancer. Moi, clairement, ça m'a chauffé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette communication autour de Street 6? Est-ce que Capcom réussit à penser les plaies du 5? Est-ce que t'en as quelque chose à foutre déjà, Mikael, de Street Fighter 6? C'est la question, hein, la question, je mets les pieds dans le plat. Alors, mais...
en vrai, c'est typiquement la question. Non, je trouve ça pas con, parce qu'en vrai, je sais pas pourquoi, je m'étais perdu, j'en avais acheté un, alors que je m'étais clairement rendu compte que c'est pas pour moi, quoi. Et là, tu vois, ce petit côté, ouais, il y a un peu de solo avec un petit côté RPG, je me dis, ah tiens, ça peut être le petit truc qui m'accroche. Mais je vais être honnête, je considère que les Street Fighter, c'est soit t'es ultra passionné et ce que j'ai à en dire, tu t'en bats les couilles, soit tu t'en fous toi-même. Ça fait partie de cette catégorie de jeu un peu particulière, donc je passe mon tour.
Oui, c'est vrai que le versus, le monde du versus est quand même relativement opaque, en tout cas niche. Et c'est vrai que bon, là, je reconnais quand même et je salue les efforts de Capcom pour ouvrir au maximum son jeu et en même temps satisfaire les passionnés avec moult communication autour de l'e-sport, etc. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer sur les deux tableaux et pour le coup, je trouve ça cool parce que le jeu a quand même, enfin, je trouve qu'il a une sacrée gueule. L'ADA est mortelle. Il a l'air cool ce jeu. Enfin, vraiment, c'est, je pense, ça va être le jeu cool du mois de juin quand il sortira. Donc, ben voilà, moi je suis curieux quand même de l'essayer. Monique,
après,
qu'est-ce que t'en
après,
penses?
Ouais, bah juste le côté genre simplifier les commandes pour les coups spéciaux. Je sais pas à quel point ça va être bien fait, mais en vrai, c'est pas ça qui bloque hein, sur ce genre de jeu. Parce qu'en vrai, passer 10-15 heures sur ces jeux-là, les coups spéciaux, enfin franchement, à part quelques trucs un peu. On va dire. Tu maîtrises assez le jeu quand même pour t'amuser largement, passer quelques heures. C'est pas. Si les gens bloquent sur les jeux de combat, ils n'arrivent pas à s'y mettre. C'est pas parce que les coups spéciaux sont durs. Il y a autre chose quand même qui bloque.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord. Et toi, tu t'intéresses le jeu ou pas trop?
Curieux à voir l'engouement qu'il y aura autour. Mais voilà. Il est clairement dans les jeux potentiels en liste d'achat, quoi.
Ok. Bon, bah, je pense que on a fait le tour sur Street 6. N'hésitez pas à essayer la démo gratuitement, donc ça peut vous permettre de vous familiariser un peu avec avec ce fameux système à 4 boutons si vous voulez l'essayer, ou tout simplement pour tester les différents personnages disponibles.
Et en plus, ouais, juste je rajoute que c'est vrai que malheureusement c'est vrai que j'ai pas trop suivi les détails à propos de ce fameux système et tout, mais bon, les jeux de combat à 4 boutons, il y a déjà DB Fighter, il y a déjà Marvel vs Capcom aussi qui avait ça. Il y avait aussi un mode auto-combo, donc bon. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai pas les détails de vraiment qu'est-ce qu'ils ont changé, mais je pense que c'est peut-être un peu de la poudre aux yeux de croire que juste parce que tu rajoutes 2-3 trucs comme ça, ça va tout changer. Non.
Oui, enfin, bien sûr. Après, encore une fois, le système est facultatif. Hein. L'idée, c'est pas de l'universaliser à tout le jeu, c'est vraiment le proposer mais en option.
Ouais, mais c'est pour le rendre accessible. Mais c'est
oui,
juste que.
Tout à fait, ouais.
En vrai, des systèmes. Qui, en tout cas, tel que tu me le présentes, ont l'air un peu pré-cimère, ça existe déjà, et j'ai pas l'impression que ça a donné le goût à beaucoup de gens. Quoi.
Écoute, mais, là, c'est basé sur l'IA, hein, c'est le fameux mot magique du moment. Donc, écoute, peut-être ça sera mieux. Je sais pas, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, donc je vous dirai ça quand j'aurai eu le temps d'y jouer. Actualité suivante, pardon. Bonne nouvelle pour toi, Monique, d'ailleurs, et tous les amateurs de vieilleries japonaises. Le visual novel The Portopia Serial Murder Case, qui avait jamais été localisé officiellement ailleurs qu'au Japon, hein, qui était uniquement disponible en japonais, est désormais disponible sur Steam gratuitement et en anglais. Dans une version qui s'appuie sur une technologie que Square Enix essaye de promouvoir, également basée sur, je vous le donne en mille, l'intelligence artificielle. C'est vraiment le mot magique en ce moment, c'est un truc de ouf. On le trouve partout, à toutes les sauces, sur le tapis. Le jeu était sorti à la base, donc The Portopia Serial Murder Case, dans les années 80, au tout début des années 80, et qui, voilà, le jeu est relativement connu en fait, pour les gens du commun des mortels, non, mais pour les amateurs de VN, donc de visual novel, il l'est pas mal, parce que déjà le jeu était assez novateur pour l'époque, avec un système où tu rentrais en fait, comme dans les vieux dungeon RPG, etc., les commandes avec un système où tu tapais les mots directement. Et surtout, bah, c'est un jeu qui est écrit par Yuji Horii, qui est le créateur de Dragon Quest. Donc évidemment, bah, ça attise un peu notre curiosité, d'autant plus que lui-même avait affirmé avoir repris des éléments de ce jeu-là dans son RPG culte. Donc ça attise quand même la curiosité, surtout que c'est un jeu qui a eu un succès monumental à l'époque sur Famicom, qui était d'abord sorti sur ordinateur, enfin sur micro-ordinateur, puis sur Famicom, où il a eu un succès quand même notable, avec, si mes sources sont bonnes, 700 000 ventes à l'époque, ce qui est pas mal. Et il est même dit, et là ça va faire plaisir à Monique, qu'un certain Hideo Kojima s'en serait inspiré pour son jeu Snatcher, un jeu que Monique apprécie beaucoup.
Non, pas du tout.
Je plaisantais.
C'est le jeu de Kojidieu que j'aime le moins. Donc
c'est justement pour ça que je le citais. Non, mais du coup, mais apparemment, après, c'est une version un peu pétée. Hein. Je sais pas, j'ai pas testé.
Ouais. Mais après, fun fact, c'est vrai qu'il s'appelle Square Enix AA Tech Preview The Portopia Serial Murder.
Ouais, c'est chelou. Ouais. C'est un truc un peu bizarre. Donc bon, il est sorti ce matin, je crois. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je l'ai installé et je vais essayer.
Curieux
ça.
De voir, il y a quoi vraiment de IA dans le jeu, parce que bon, là effectivement, ça fait un peu mot magique. Si c'est juste de la trad, bon.
En fait, je crois que le système d'époque était quand même relativement rigide en matière d'entrée de texte et que l'IA en fait. Pardon, et là pour si tu tapes quelque chose de similaire à une des commandes prévues par le jeu, il considère que c'est la bonne commande, un truc comme ça, si j'ai bien compris.
Ouais, bon, à mon avis, c'est arrangé à côté des histoires de NFT de Square Enix, quoi, quand même.
Ouais, mais en même temps, le jeu en lui-même est probablement intéressant, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer, quoi.
Oui, non, il y a moyen, hein, mais je dis juste que ça sent quand même le projet IA, blockchain, je sais pas quoi, quoi.
Ah oui, clairement. Ouais. Surtout ce qui est mots-clés, on coche les cases, ouais. Effectivement.
Ouais. C'est un truc pour faire bander les investisseurs, quoi.
Je crois que Mikael va même pas avoir un mot à dire là-dessus, parce que c'est pas vraiment son délire. Mais éventuellement, je te propose si tu veux.
Non, ça ira.
Non,
mais
après,
ça marche.
Sur le côté business, quand même, c'est quand même intéressant ce côté. Cette phase peut-être de effectivement full IA partout, il y avait Ubisoft,
on
en parlait le mois dernier, qui voulait faire écrire des trucs
de PNJ, des dialogues de PNJ, ouais, par des IA.
Oui, bon.
Mais en vrai, pour les dialogues de PNJ, je pense que en vrai c'est une bonne idée pour le coup, parce que tu regardes ce que te sort aujourd'hui, même un ChatGPT auquel tu peux accéder, tu vois, et c'est vrai que c'est mille fois mieux écrit que la trad au kilomètre que tu es parfois obligé de subir dans certains jeux. Mais une fois que tu as dit ça, tu sais que ça va partir dans tous les sens. Tu sais que tu vas avoir du IA washing et du branding qui va se faire sur certains jeux à travers ça. Bon, moi, je vais regarder ça de loin et puis on repassera quand ils auront déjà fait un jeu qui repose énormément là-dessus et qui fait beaucoup ses preuves depuis qu'on en parle beaucoup aussi. Parce qu'en fait... Enfin, au bout d'un moment, l'intelligence artificielle t'en a déjà dans une moindre mesure dans pas mal de jeux, enfin, sans même parler du comportement des ennemis, hein, mais bref.
Ouais, après, ouais, tout à fait. Ouais.
Après, non, mais c'est sûr que au moindre truc, genre la génération de textures par IA ou genre des conneries, c'est sûr que ça va arriver, quoi. Et au final, pour nous, ça changera rien. On se dira, ah oui, bon, c'est une texture de caillou, quoi.
Ouais. Bref, je pense qu'il est temps de passer à l'actualité suivante. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde aura des choses à dire, puisque ça concerne ligne éditoriale de Sony, qui donc a annoncé il y a quelques jours le rachat du studio Firewalk. Alors, Firewalk, vous allez me dire, et non pas walk comme les walkistes, hein, Firewalk comme quelqu'un qui marche, ou comme Firewalk with Me, le film dérivé de Twin Peaks. Donc, c'est le 20e studio donc, qui rejoint les PlayStation Studios après les rachats de Bluepoint. Et de Housemarque en 2021. Donc Bluepoint, c'était les remakes de Demon's Souls et de Shadow of the Colossus.
Et Bungie aussi qu'ils ont acheté, non ?
Ouais, alors Bungie, justement, j'étais étonné de l'apprendre, mais ne fait pas partie des PlayStation Studios.
Ah.
Ils ont un statut un peu à part de... Alors, ils appartiennent à PlayStation, mais ils sont quand même relativement indépendants. Je veux dire, ils sont pas dans les PS Studios.
Les secondes parts, quoi.
Ouais, on va dire ça.
Comme on dit.
Donc Firewalk, pour le coup, revient vraiment dans le giron de PS Studios. Et le nom vous évoque peut-être rien, et c'est normal, puisque c'est un studio très récent, fondé en 2018. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé d'anciens développeurs de Bungie, justement, de Treyarch, donc Call of Duty, Raven, Respawn, qui avait donc fait les Titanfall, Red Storm, ou encore 343 Industries, donc les développeurs des derniers Halo.
Ouais, en donc, gros, c'est un studio états-unien, quoi.
Un studio états-unien composé de vétérans du FPS. Et c'est intéressant, justement, parce qu'ils ont annoncé être sur le développement d'un jeu multi-exclusif PS5 qui se positionne comme un jeu service. C'est intéressant à analyser parce que vis-à-vis de la ligne éditoriale de Sony, qu'on a beaucoup tendance à résumer à AAA solo, narratif, avec les Horizons, les God of War, les Last of Us, etc. On voit quand même que Sony cherche à se diversifier depuis quelques années, et notamment avec la PS5, on a vu quand même un Returnal qui était quand même sur un type de jeu bien particulier, le Demon's Souls Remake, qui s'inscrit aussi dans cette veine un peu hardcore de la ligne édito de Sony. On a évidemment les Last of Us, les God of War qui sont un peu pour parler à tout le monde, et on est il y avait un peu cette lacune de jeu service, de jeu multi, qui a priori devrait être comblé par ce fameux studio Firewalk, studio états-unien. Donc je sais pas pour vous d'ailleurs, le directeur créatif du studio, c'est un ancien, je crois l'ancien réalisateur de Destiny 2, donc on est vraiment dans cette veine là. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, c'est pas forcément des jeux qui m'attirent énormément, les jeux narratifs, les jeux service, pardon. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Sony se diversifie. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que Sony est dans le juste, ou est-ce que les jeux service c'est déjà ringard ? C'est un peu ce que je me suis demandé tout à l'heure, Mikael.
Ah, la patate chaude.
Ah, c'est salaud. Désolé. Après, c'est pas forcément l'idée, c'est pas de faire un exposé, hein. T'inquiète pas.
Je pense que j'aurais pas d'avis catégorique là-dessus. Je pense déjà que ça fait partie d'une frange de jeu. Tu vois, je te disais sur Street Fighter et le Versus Fighting dans son ensemble que soit ça intéresse pas les gens, soit les gens qui s'y intéressent s'y connaissent 10 fois plus que moi, donc ça sert à rien d'en parler. T'as un côté communauté du versus fighting. Je considère que les jeux service, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un peu ringard, mais est-ce que t'es vraiment la cible ? Est-ce que tu t'es déjà perdu dans un jeu service ? Est-ce que t'as déjà été un gros joueur de Destiny ? Je pense qu'il y a encore des communautés de ces jeux. Communautés qui sont potentiellement chopables, et que Sony a raison d'avancer là-dessus. Mais ça s'adresse pas forcément aux joueurs que je suis, on va dire.
D'une certaine manière, les derniers Assassin's Creed étaient vraiment sur ce modèle, hein. Alors, c'est pas du tout le même genre, puisqu'on n'est pas sur du multi, etc. Mais il y avait quand même cette veine jeu-service, avec des mises à jour qui rajoutaient des quêtes. C'est vraiment, le jeu avait un suivi de vraiment penser comme un jeu-service quand tu lançais le client.
Mais t'es quand même très différent.
Oui, bien sûr.
Pour moi, par essence, le jeu-service, en fait, c'est le côté multi aussi, tu vois.
Ah, effectivement, ouais. C'est... D'ailleurs, on parlera ensuite d'un jeu multi qui, pour le coup, lui... On en parlera plus tard, je vais pas spoiler la cartouche. Monique, peut-être ça t'évoque quelque chose, ça ? Parce que les jeux service, ok, mais tu vois, par exemple, vous me parliez il y a pas si longtemps du Left 4 Dead Like, je sais plus comment il s'appelait. Back 4 Blood, voilà, merci. Oui, c'est un jeu qui se voulait jeu service et qui finalement, au bout d'un an, va quasiment abandonner toute mise à jour, quoi.
Ouais, j'avoue, j'ai pas suivi les dernières news, mais ouais, non, moi je suis pas totalement fermé au jeu service, hein, c'est vraiment à voir. Même The Rising, j'avais sauté dedans.
Mais est-ce que tu y joues encore ? C'est ça la question.
Bah ouais, mais t'es pas obligé d'y jouer, enfin tu signes pas un CDI quand tu joues à ce genre de jeu, hein. Aussi, je sais que leur rêve à eux, c'est des gens qui vont s'y remettre constamment. Mais tu peux avoir une petite période, même Paladin, j'avais joué à un moment.
C'est vrai, je me souviens de cette période-là, ouais.
Il y a ça, League of Legends Mobile, quand il était sorti aussi, j'étais parti en couille, mais voilà. Non, c'est moi, je sais pas faire mon truc, pourquoi pas. En fait, le truc, c'est que jeu service, pour moi, ça veut tout rien dire, c'est à voir. Après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont, je pense, hermétiques aux propositions que bien souvent il y a dans les jeux services, ça c'est sûr. Mais
ouais. Et là, moi, le côté FPS, est-ce que c'est vraiment un truc qui te botte ?
À voir. Il y a Redfall qui arrive bientôt aussi. À voir.
Ouais, d'ailleurs, disponible Day One dans le Game Pass. Donc, pour le coup, celui-là, il a au moins cet avantage-là.
Il en aura peut-être besoin. Parce que les premiers tours.
Ouais. Ça permettra aux gens
d'être
l'essayer.
Pas trop méchant.
Bref, dernière actualité avant de partir sur la digression du jour, c'est Diablo 4. Alors, écoutez, c'est pas l'occasion forcément de revenir sur tous les détails de la bêta qui s'est tenue il y a quelques semaines, ni de parler vraiment de la communication du jeu. Mais juste, on n'a jamais vraiment parlé de Diablo, c'est pourtant une licence importante du jeu vidéo. Moi, je connais surtout le 3, évidemment, étant donné que je suis relativement jeune et que j'ai pas eu de PC à l'époque du 2. Je suis méga chaud, en fait. Plus je le vois, plus le jeu me botte. Notamment pour une raison très simple, c'est que il a l'intelligence de sortir Day One sur console et en plus d'avoir un mode coop local. Donc à deux joueurs sur la même console, sur le même écran, et d'être en capacité de rejoindre d'autres personnes, jusqu'à 4 je crois, 4 joueurs en même temps. Donc c'est techniquement un jeu qui peut être joué à 2 et 2, enfin 2 personnes sur la même console, à 4 avec seulement 2 consoles, et je trouve ça hyper cool en fait, puisqu'il n'y en a pas beaucoup des jeux qui permettent de faire ça, et notamment aussi le fait que le 3 m'avait globalement beaucoup plu. Même si c'est pas un jeu que j'ai non plus saigné jusque dans ses derniers retranchements, à l'époque de sa sortie, j'avais beaucoup aimé. Mikawa, je pense que c'est un peu ton cas aussi, à moins que tu sois vraiment un fan de Diablo. Je ne sais pas.
Non, pas un grand fan. Après, j'avais beaucoup joué au 3, j'avais beaucoup apprécié le 3, mais je vais être honnête, le 4, je n'ai rien suivi. Voilà. Donc je n'ai rien
sort le 6 juin.
Ah non, j'en parlerai quand il sortira, parce qu'à mon avis, il y a quand même de belles chances que je le prenne, quoique, faut voir, mais potentiellement intéressé, mais non, je vais être hyper honnête, j'ai rien vu du jeu.
Ok, je sais pas si Monique, c'est des jeux qui te parlent, le côté gothique, un peu chevalier, mais là pour le coup, vraiment biblique, ange déchu, je pars en couille.
Ah ouais, non, alors moi...
C'est très précis comme style.
Alors ouais, moi le truc qui m'intéresse, c'est clairement pas le délire gothique et tout, moi clairement c'est les chiffres, insulter mes potes.
Ouais.
Mais donc voilà, c'est pas possible que j'y joue, pareil, ça sera en fonction de l'engouement peut-être de mes potes et tout. Et voilà, je ferme pas la porte, mais je suis pas hypé plus que ça, quoi.
Ouais, ok. T'avais joué au 3, du coup ?
Non, pas au 3, parce que quand le 3 était sorti, j'avais pas d'argent pour me le payer. Donc, donc avec mes potes, justement, il y en a qui étaient partis sur Diablo, et si je dis pas d'annerie, c'était quand il y avait Smite qui s'était lancé. Donc
Smite,
j'étais parti dans la team Smite, ouais.
Ouais.
Qui est pas vraiment le même genre de jeu, enfin même pas du tout, mais on va dire c'était les jeux où t'es sur Skype avec tes potes et tout le monde s'insulte, quoi.
Bon résumé de Smite.
Ouais, moi je préviens, si on joue à Diablo 4, ça va que insulter.
Ouais, avec plaisir. J'attends ça avec impatience.
Parce que pareil, tu vois Borderlands 2 aussi, tu vois, c'est le même genre de jeu.
Ouais, tu joues limite plus pour l'expérience communautaire et amicale que pour le jeu en lui-même.
Pour il y a un pote qui va ramasser une arme, tu l'attrapes, tu la jettes plus loin, voilà.
Tu veux faire
ce
ça.
Genre de truc.
Tu vas vraiment faire ça. Ok.
Ah, full nuisance.
On va bien rigoler.
Pour la nuisance, c'est les gros chiffres, hein, c'est tout.
Ouais. Bon, le 6 juin, on sera peut-être là, du coup, on vous en parlera dans un prochain numéro. La digression du jour, on y arrive enfin. Mikael l'a proposé au début du podcast. Qu'est-ce qui se passe avec Twitter, en fait ? C'est quoi le... What the fuck ? C'est quoi le truc ? Elon Musk,
en fait,
tout ça, les roquettes, Elon Musk, notre sauveur. Mikael, qu'est-ce
déjà...
qu'il y a ?
Je tiens à faire une petite publicité pour commencer sur la chaîne de la chaîne Twitch de anciennement un créatif. Il a commencé une lecture d'un livre dont vous êtes le héros et tu es Elon Musk. C'est dispo sur sa chaîne replay. C'est absolument exceptionnel. Qui n'a jamais rêvé de jouer à un livre dont vous êtes le héros où tu incarnes Elon Musk? Et ensuite, pour parler un petit peu de Twitter, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'en fait, moi, il y a un move que j'ai trouvé incroyable. Donc, previously in Twitter, Elon Musk fout une partie de sa fortune non négligeable pour le rachat de Twitter. Il rentre dans une croisade pour à la fois trouver une nouvelle source de monétisation, mais également éradiquer la présence de bots sur la plateforme. pour la présence de bots, on dira sobrement que ça n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été une réussite. Et concernant... oui, non, mais oui, totalement, c'est un échec incroyable. Ah, oui. Et concernant les nouveaux modes de, le nouveau mode de monétisation, il y a le fameux Twitter Blue qui a été lancé. Alors, ce qui est incroyable, c'est de suivre un petit peu la dynamique de Twitter Blue, où au départ, en fait, tu avais la cohabitation entre les comptes certifiés classiques et Twitter Blue, sauf que quand tu allais sur le profil de la personne, tu pouvais cliquer sur son petit badge certif et t'avais soit il est certifié, soit il a payé pour. Donc évidemment, ça a shamé de ouf pour les gens qui payaient. Ensuite, il y a eu une période où qui a été très très courte, où en fait, quand tu te rendais sur le profil de la personne, c'était mis « cette personne est certifiée » ou « elle a souscrit à Twitter Blue ». Donc là, c'était assez malin, mais en même temps, c'était l'enfer de la fake news, parce que du coup, n'importe quel compte pouvait soit être certifié parce que c'était un compte reconnu, soit être certifié parce que c'était juste quelqu'un qui avait payé. Retrait ensuite de la certification officielle de la part d'Elon Musk à bon nombre des acteurs qui l'avaient. Donc, on avait seulement la certification Blue qui cohabitait avec une nouvelle certification. Il faut suivre la petite coche de validation dorée qui correspond non pas à des individus, mais des personnes morales, des entreprises. Donc là, vous vous dites, OK. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'avec le retrait de cette certification, tu t'es rendu compte que des mecs comme Kylian Mbappé ou Squeezie n'étaient plus validés Twitter Blue. Et en fait, du coup, les seuls gens qui avaient Twitter Blue, c'était les mecs qui avaient payé. Et déjà, c'était la honte au départ. Ouais, quand tu te rendais sur leur profil et tu te rendais compte qu'ils avaient payé, là, il n'y avait plus qu'eux. Et du coup, il y a un move que je trouve absolument phénoménal de la part d'Elon Musk. Et je dis ça, évidemment, teinté d'ironie, c'est le fait d'abonner, entre guillemets, gratuitement des gros comptes à Twitter Blue pour que ça quitte cette image de détecteur à bolos, pour citer Monique. Et en fait, tu t'es retrouvé avec pas mal d'énormes comptes qui se sont sentis obligés de tweeter en disant « Alors, pour info, je suis Twitter Blue et je n'ai pas payé pour ça. » Alors, il y a eu énormément de gros comptes, mais il y en a un que j'ai trouvé particulièrement savoureux, c'est Stephen King, l'auteur que vous connaissez bien évidemment, qui s'était déjà pris la tête avec Elon Musk lors de l'annonce de Twitter Blue en disant « Mais qu'est-ce que j'en ai à battre de perdre ma certif ? C'est vous qui devriez me payer pour que j'utilise Twitter. Jamais je payerai pour ça. » Et du coup, il a jamais payé pour ça, mais on lui a offert la certification pour que ce soit pas une certif qui soit un détecteur à bolos. Et du coup, forcément, il s'est senti obligé de tweeter en disant qu'il n'avait pas payé. Et Elon Musk lui a répondu de rien. Donc voilà, je trouve cette gestion de Twitter absolument phénoménale. Et à cette petite problématique de monétisation s'ajoutent quelques petites dingueries du genre... tu te retrouves avec des feeds d'actu qui s'actualisent tout seuls. Tu avais des problèmes d'aperçu de MP à une époque, enfin... Il y a mille et un trucs qui sont en train de partir sur la plateforme. T'as l'impression qu'en fait, ils n'ont plus de serveur pré-prod. Donc, moi, je suis admiratif.
Le lecteur vidéo qui pue la merde.
Oui, il y a ça.
Ah ouais, non, mais... mais c'est pareil. Pardon, mon chat est en train de défoncer la baie vitrée parce qu'il y a un autre chat dehors.
Il
y a
ça,
un truc
que
je trouve incroyable aussi. Je suis désolé. Il y a un truc que je trouve incroyable. C'est que dans le menu, ils ont ajouté une entrée de menu pour souscrire à Twitter Blue et ils ont ajouté la version professionnelle pour les entreprises. Et en fait, je crois que c'est encore le cas actuellement. Je le fais en direct. Organisation. Et oui, en fait, t'as la moitié du texte qui est traduit et l'autre moitié qui n'est pas traduit. C'est une dinguerie. Vraiment, vous allez sur Twitter, sur PC, vous avez accueil, explorer, notif, message signé, Twitter Blue, organisation certifiée, et puis vous avez la moitié du texte qui est traduit et l'autre moitié qui n'est pas traduit pour une page accessible dans une entrée de menu toujours visible sur le site de Twitter. C'est fou d'être à ce niveau d'amateurisme pour une plateforme comme Twitter. Donc voilà,
mon
cher Elon.
Je confirme de mon côté aussi, c'est semi-traduit, ouais.
Donc c'est une descente aux enfers. Enfin, je pense que, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même une grande affection pour Twitter. C'est un réseau que je trouve incroyablement toxique, mais c'est quand même le réseau sur lequel...
C'est pour ça qu'on l'aime aussi.
Oui, voilà, ça reste le réseau où on passe le plus de temps, et là, mais vraiment, c'est la Bérésina, quoi.
Ouais, mon petit plaisir, c'est les petites extensions pour navigateurs qui défoncent ce que fait Elon Musk aussi. Genre Twitter Blue, moi ça va, j'ai fait sauter quand je suis sur Browser. Quand tu pouvais pas savoir qui avait la certif entre les trucs et les trucs, bah il y avait une extension pour ça.
Bah ouais,
oui,
excellent ça.
Tout à
je
fait,
l'ai pas
je
vu
l'avais
l'extension.
Vu passer.
Voilà, donc comme dirait notre bon vieux Jacques, notre maison brûle et, et voilà tout ça.
Et tout le monde regarde ailleurs.
Exactement.
Non, mais ce qui est amusant justement, c'est que les gens se soient emparés de ces problèmes-là pour faire ce type d'extension de browser qui permettent justement de déceler les manœuvres. Vraiment éclaté au sol de Musk et ton équipe, c'est vraiment bizarre, hein, parce que pour le coup
après il va peut-être nous déterrer tous les trucs des anciens temps, hein, tu sais, genre les réels qui s'en souvient.
Il y a eu ça sur Twitter.
Oui, c'était les stories sur Twitter.
Alors sachez qu'à l'époque il avait aussi sorti un sondage, est-ce que vous êtes pour le retour de Vine en matière de déterrage, qui appartient à Twitter, hein, donc
ouais bah comme Periscope, hein, mais je crois que Periscope n'est toujours pas mort, mais voilà.
Il me semble qu'il y avait une période sur Twitter où il y avait une intégration native de Periscope.
Ouais.
Qui permettait de faire des vidéos en direct sur ton Twitter.
Ouais, là je sais pas si ça existe encore. Bon, là dans le même truc, dans le même genre, il y a les Spaces, hein, bon, voilà.
Oui, ça.
Alors, pas mal utilisé dans le milieu du foot.
Oui, j'ai vu, oui.
Et c'est assez ouf, parce que, pour le coup, vu que j'ai deux profils, j'ai vraiment le contraste et c'est vraiment une dinguerie de voir que dans le foot. Ça a pas mal pris, alors que dans le jeu vidéo, la politique ou autre, j'en vois aucun passer.
Ah si, politique, il y en a quelques-uns. Il y a quand même eu des Space Mythic, le débrief PS de l'an dernier qui était quand même légendaire.
Je me rappelle plus du tout.
Oh, t'as peut-être dû voir des extraits passés de gens qui avaient des choses à reprocher au PS.
Oui. Bon, en tout cas, pour résumer un peu ma position là-dessus, Je n'utilise plus autant Twitter depuis que Elon Musk l'a racheté. Alors, je vais pas dire que j'y vais plus du tout, hein, mais clairement, j'utilise beaucoup moins.
Moi, j'ai refusé d'acheter une Tesla suite à cause d'Elon Musk.
Et moi, j'ai refusé les 200 000 euros d'Amazon aussi. Hein.
Les 200 000 euros? Non, ce que je veux dire, c'est pas tellement un
acte de violence. C'est pas plus... la vanne.
Mais... J'ai la ref,
okay,
Monique.
C'est bon.
C'est plus que de fait, je me rends compte que je l'utilise moins. En fait, c'est peut-être pas que pour ça, hein, mais je sais pas. Il y a un truc qui me saoule un peu dans la manière dont le truc est en train de tourner. Bon, après.
Et pendant ce temps-là, t'as Monique qui se met un avatar et une bio en.
Et
mode,
ça, j'y vais en tout cas pour
péter
ça aussi.
Des gueules, quoi.
Ah ouais, moi je suis sur un arc sombre sur Twitter.
Écoute, moi je valide entièrement ton arc, hein, je me marre.
Question de
bon cœur.
Question de donner un peu de poids à cette chronique, on fait que bitcher. C'est aussi à noter que si vous avez un compte Twitter avec quelques followers, vous avez pu vous rendre compte que les modifs d'algorithme, par contre, sont criantes, mais vraiment. Vu que t'as un écran pour vous à l'accueil où tu te retrouves à voir des tweets qui sont y compris de comptes que tu ne follow pas, moi avec le compte TMF qui doit avoir un truc genre 35 000 followers, j'ai des tweets qui ont percé de ouf et du coup t'as un potentiel à sauce sur Twitter qui est encore plus grand qu'avant parce qu'en fait tu vas avoir des tweets qui vont percer, qui vont être affichés à des centaines de milliers de personnes qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, bah, plus elles vont s'insulter ou plus elles vont réagir positivement, j'ai eu aussi des trucs positifs, plus ça va pousser le tweet et t'as un effet boule de neige qui est bien au-dessus de tous les réseaux, pour le coup.
Ouais.
Ah, c'est, okay. C'est tout ce qu'on aime, voilà. Hein, le harcèlement qui se renforce, tout ça.
Ah mais oui, non mais c'est exactement ça, c'est c'est pareil, c'est les gros comptes qui sont avantagés quoi, clairement encore une fois.
Comme d'habitude, mais est-ce que c'est pas fait exprès ce truc là?
Possible, ah bah, mais c'est une dinguerie.
Oui,
ça reste une dinguerie, je suis d'accord, mais bon.
Parce que moi après je suis un petit compte, mais c'est vrai que je suis clairement sur un arc cyberharcèlement là sur Twitter.
Ah oui, mais c'est un cyberharcèlement ciblé. Peut dire, c'est ciblé, ça va. En tout cas, ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire. Vous pourrez suivre Monique si vous ne le faites pas déjà. Vous avez toujours le petit at dans les notes de l'émission. Donc, on a tous nos trois at Twitter, donc juste en dessous dans la description. Et si vous ne l'avez pas encore fait, suivez Monique pour la bagarre en ce moment. C'est rigolo.
Des insultes de politique, genre des takes gratuites.
Des excellentes takes, dont une qui avait bidé sur Bernard Cazeneuve et Eric Ciotti. Un de tes meilleurs tweets. Et celui de Mikaël aussi, qui était un de ses meilleurs. En ce moment, vous êtes bon. Vous êtes très bon. Moi,
le dernier tweet de Monique dont je me rappelle, c'est TG les vieux. Seigneur avec Macron, qui disait si vous connaissez des gens qui veulent perturber des rassemblements et tout, donnez-nous les noms. Et... Alors attends, c'était quoi ? On fera ce qu'il faut, je sais plus la formule. Mais
avec les casseroles là, ouais.
Ouais, mais genre, t'avais l'impression que t'allais avoir trois retraités qui allaient te foutre au fin fond du désert enterré, quoi. Et genre, t'as eu un accident, quoi.
Incroyable. Ouais, bah, TG les vieux, hein, ils méritent que ça.
Ouais. Mais je suis même pas sûr que, comme on en avait discuté, ce soit un vrai compte, en fait, les seniors avec Macron.
Ah, ouais, mais moi, excusez, Arc PVP, voilà, il m'en faut pas beaucoup.
Ah oui, mais c'était très drôle, t'as bien fait. Non, c'est juste, c'est plus, ils sont tellement caricaturaux que j'ai presque du mal à croire en leur, à la véracité de leur truc, quoi. Je me demande si c'est pas un troll qui se fait passer pour ça. Bref. La mage qui change tout, c'est quoi?
Ah Twitter. Oui, voilà, moi c'est juste, non, moi c'est une autre mise à jour de quelque chose de vraiment important dans ma vie. J'en avais parlé dans les podcasts précédents, mais ça y est, enfin, la carte Wahoo a rejoint Apple Wallet. Voilà, c'est tout. Les gens avaient besoin d'être au courant. Voilà.
Sérieux ?
Je n'ai rien ajouté.
S'ils ont vraiment fait une mise à jour pour ça ?
Bah ouais, avant il n'y avait pas, et quand j'ai rouvert mon appli au champ, là, il y a quelques jours, j'ai pu ajouter la carte Wahoo à Wallet. Excellent.
Incroyable. Bah écoute,
t'as refusé le chèque d'Amazon, mais pas celui de Auchan.
Sur Google, c'était déjà le cas depuis longtemps.
Sur Google, c'était même géolocalisé, on n'en parle pas.
Bah ouais.
Genre quand j'arrivais à Auchan, ils me mettaient en notif ma carte Wahoo.
Bah ouais. Bah, c'est ça qui est bien. Hein. Merci Google. Bah, hein. On a beau critiquer.
Mais c'est ça, quand j'étais sur Android, j'étais un peu dans Deus Ex, tu vois. Parce que genre j'avais toutes mes cartes de fidélité, toutes mes cartes bleues sur mon téléphone et ma Navigo.
Bien sûr.
Et après, je suis passé sur iOS. Et j'ai dû repasser à la carte, enfin, ou passe Navigo classique, comme un paysan.
Genre,
sors mon portefeuille au portique et tout.
Oh là 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 là, il est reparti normalement, dans le passé, quoi.
Normalement, c'est réglé cet été. Voilà.
Bon, bah, espérons que ce soit réglé rapidement. Ouais. Bref,
D'ailleurs, en signe de, d'ailleurs, rapidement, protestation, en plus, avec le prix de la Navigo qui augmente, je fais tout à vélo depuis le 1er janvier.
Bah, pécresse d'émission, hein.
Voilà, j'ai un peu envie de crever en vrai, hein, mes cuisses, mais bon, bref.
Bah là, après les beaux jours arrivent, tu n'auras au moins plus à supporter le froid de l'hiver.
Le froid, ça va, c'est les cuisses. Hein. Mais
ouais,
bon,
bah ça te fait un peu les muscles.
Bah c'est ça, en vrai,
Wesh.
Ça, je me disais, ouais, tranquille, je vais souffrir pendant 2 mois, mais bon, là, j'avoue que ça commence. Hein.
Bah écoute, bientôt, tu pourras faire le Tour de France. Hein.
On n'y est pas encore. Hein.
Bref, passons à la petite rubrique d'entracte ludique, pardon. J'en perds mes mots.
C'est vrai qu'on a un podcast de jeux vidéo, on a tendance à l'oublier. Mais...
Oui, des fois je me dis merde, qu'est-ce qu'on fait ? On va passer donc à la rubrique avant les critiques, notamment de Resident Evil 4. On va passer à la traditionnelle petite pause amusante de l'émission où je vais vous lire des critiques de sens critique. Il y en a 4, j'ai choisi des jeux, voilà, on va essayer de rester dans la diversité, voilà, c'est un peu la thématique du jour, même si c'est des jeux qui sont tous relativement récents. Donc bref, je commence, le principe, encore une fois, je le rappelle pour les gens qui découvriraient l'émission, je lis des critiques de sens critique tirées de différents internautes, et le but est de retrouver le jeu dont il est question à partir de la critique, tout simplement. Premier jeu, on est donc sur un jeu assez récent. Déjà, la DA est splendide. C'est pas au niveau des DA de Hidetaka Miyazaki, mais on va pas non plus trop en redemander. La qualité des graphismes et des textures sont pas mal, même si en aujourd'hui, je lis littéralement ce qu'il écrit, même si en aujourd'hui, on fait encore mieux.
Est-ce que c'est Wulong Fallen Order ?
Alors non. Mais je vois le lien que tu as pu faire avec les DA de Hidetaka Miyazaki, mais non, on n'est pas du tout là-dessus. Mais c'est tout à fait honorable dans les standards actuels. L'histoire...
Merde, Ify Rush, machin, là, je sais pas comment il s'appelle.
Non, c'est pas Ify Rush. L'histoire...
Non, du coup, c'est Wild Arts, du coup.
Non, c'est pas Wild Arts non plus.
Ouais.
L'histoire, qui a beau ne pas être révolutionnaire, fait le café et met en haleine jusqu'au bout. Pas mal de quêtes annexes intéressantes. Le gameplay est maîtrisé. Franchement, c'est très propre. Sans divulgâcher l'expérience, j'ai personnellement trouvé que les combats étaient très bien foutus. Des fois un peu brouillons, pour comprendre quand il y a beaucoup d'ennemis, mais relativement bien compensés par le système de couleurs. Je m'attendais à ce que ce soit n'importe quoi, mais au final, pas du tout. Je ne voyais pas comment rendre jouable cela, et ils n'ont pas du tout fait comme je l'imaginais, et tant mieux. Après, le jeu n'est pas parfait, mais pour un produit cross-média de licence, c'est du joli travail que je mettrai largement au niveau des Arkham. Je déplore que la Cancel Army s'attaque à ce jeu pour des raisons si éloignées du jeu lui-même.
Je l'ai.
J'espère que les ventes ne seront pas impactées par les revendications honteuses de ces bobos wokistes.
De merde.
Non, Poudlard Zizi, là.
Poudlard... Comment il s'appelle ? Poudlard Zizi.
Hogwarts Legacy, ouais.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Mais attends, c'est Poudlard Zizi. Attends. Il quoi dit quoi sur le style graphique au départ ?
Que ça n'a rien à voir avec Dark Souls.
Il fait un parallèle avec Dark Souls alors que ça n'a rien à voir. Il a mis 8 sur 10.
Ouais, c'est moi, je partais dans un truc qui n'était pas réaliste. Je sais pas. Ouais.
Ah oui, tu pensais à Miyazaki, le dessin animé ? Enfin, le dessin animé ?
Mais oui.
Ah oui, mais c'était Hidetaka Miyazaki de Dark Souls.
Ah,
il s'appelle c'est pas... pareil.
C'est pour ça que, vu la comparaison, je pensais à Wulong qui effectivement fait un peu From Software Wish.
Oui, bah oui, oui.
Mais
bah c'est Team Ninja, quoi.
Ouais, mais alors le rapport. Enfin...
Attends, le plus drôle, c'est la fin. Hein.
Le rapport, quand même.
ouais, non, le rapport est éclaté au sol, je suis d'accord. J'espère que les ventes ne seront pas impactées par les revendications honteuses de ces bobos wokistes extrémistes et que cela ne sortira pas de la bulle toxique qu'est Twitter. Le jeu mérite vraiment de fonctionner.
Tout se recoupe.
Évidemment, bah, c'est pour ça que j'avais choisi
vrai
ça.
Vrai fan d'Harry Potter. Hein.
Bah ouais, ouais, carrément.
J'allais dire Twitter Blue détecté aussi. Hein.
Ah bah là, à mon avis, on est sur un Twitter Blue, ouais. Bref, du coup, le point va à Monique, si je me suis pas trompé.
Oh, Dajam Kawel, c'est lui qui a dit le vrai nom.
Non, le point va à Monique. Je me fais massacrer tous les mois, mais pas au point d'accepter la charité.
Ok. Bon, le deuxième, tu as peut-être trouvé Mikawel. Alors, on passe à la suite. Je vais décevoir l'un de mes éclaireurs, mais même en essayant de le refaire une deuxième fois en entier, ce jeu ne passe pas. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. J'ai déjà eu de ces rêves étranges, où j'essayais de m'enfuir de quelqu'un, et que bizarrement, j'arrivais à sauter bien plus loin, courir bien plus vite. Bref, il y avait un mélange de frayeur et de fascination pour une chose qui semblait pourtant bien réelle sur le moment. Certains volaient. Moi, c'était la course. Quand on m'a présenté ce jeu, je me suis dit « Oh là là, quelle putain de bonne idée !» Enfin, une expérience originale, dans cette espèce de suite, de marasme de suite et de course à la puissance. De plus, le côté « seul contre tous » est bien rendu dans les trailers, faisant penser à une sorte d'intrigue d'état totalitaire à la 1984. Parce que c'est bien connu, on vit dans 1984. On vit vraiment dans une saucisse. Non, c'est pas écrit ça. Bref. De la première pirouette, je vois qu'il va falloir suivre une sorte de couloir, une action, un script.
Est-ce que c'est Forspoken ?
Non, c'est un peu plus vieux que ça. C'est un jeu 2009, je crois, 2010. J'ai pas la date exacte.
Ah ouais, bah c'est facile.
Ouais, c'est PS3 360.
Allez, il est pour toi, Mika, il est facile. Là, je suis persuadé.
Donc,
si tu l'as, vas-y, dis-le, hein, dis-le.
Pour un jeu que j'espérais être une invitation à une échappée, la douche n'a pas été froide. Elle a été glacée avec jet de verre pilé. J'ai clairement eu l'impression...
Je mets un terme à ce 4 sur 10, c'est Mirror's Edge.
Exactement. Et c'est un 5 sur 10.
Oh là là, je suis nul.
Alors, tu l'aurais trouvé à la fin, parce que
tu le dis.
La suite, c'était...
Running et 1984.
Quelques sensations... globalement, un circuit court et millimétré. Le pire pour moi reste les sauts où on cède de deux murs. Là, je pense que tu aurais trouvé. Bref, oui,
honnêtement, je ne présume de rien.
Donc 5 sur 10 pour Mirror's Edge. Donc effectivement, hein, vous disiez que le jeu avait fait consensus, mais c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont râlé.
Il y a toujours quelqu'un sur Sens Critique pour râler sur n'importe quoi, de toute façon.
C'est un peu le principe, ouais. Sinon, on ferait pas d'entracte ludique en même temps. Ce serait pas drôle. Bref, passons au troisième critique. Cette surévaluation me dépasse. Bordel que c'est surcoté ce truc. Je me suis fait chier devant un scénario bidon, vu mille fois. Des personnages bidons, vu mille fois. Un gameplay bidon, vu mille fois. Techniquement, c'est pas complètement dégueu, et la musique est sympatoche, c'est vrai. Même si parfois beaucoup trop présente et répétitive, principalement dans les phases FedEx, où je baisse régulièrement le volume de la musique dans les paramètres. Si une jolie musique faisait un bon jeu, ça se saurait. Aux innombrables fans de ce jeu, votre cas me dépasse. Arrêtez d'étaler votre médiocrité en vous extasiant publiquement devant tout et n'importe quoi. C'est juste pas possible.
Sur la masturbation. Est-ce que c'est Elden Ring ?
Non, c'est pas Elden Ring. C'est un jeu fin des années 2010, deuxième moitié des années 2010, mais un tout petit peu plus vieux qu'Elden Ring du coup. Je dirais que le jeu a maintenant 5 ans.
Okay.
4 ou 5 ans, ouais. 5 ans même, je dirais. Donc j'en étais où ? Sur la masturbation générale autour du scénario. Franchement, la thématique de la conscience des machines, vous avez jamais vu ça ? Vous avez jamais vu 2001, l'Odyssée de l'espace ? Ghost okay. in the Shell ? Blade Runner ?
Je vais devoir recouper là, désolé.
Mikael, tu l'as pas ?
Bah ouais, tente-le. Là, il est facile.
Ah non, 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 mais...
C'est je pire, sais pas, moi, Battlestar Galactica ? Un Isaac Asimov ?
Non, c'est Nier Automata.
C'est carrément Nier Automata, oui.
Oh là 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 là.
Bah, le côté musique sympatoche, masturbation générale sur le scénario.
FedEx,
ouais, c'était
ouais,
trop mal.
Ouais, non, mais je suis juste claqué. Hein. Je n'ai aucune excuse.
Ça arrive, non, d'accord. Mais t'inquiète. L'exercice n'est pas évident. Donc 4 sur 10 de la part de je sais plus qui, mais visiblement il était un peu remonté contre Nier Automata. Ça m'a un peu fait rire le côté arrêter de vous branler sur le jeu, de vous extasier publiquement, ce que j'ai fait littéralement pendant une heure et demie sur YouTube, mais ça m'a fait beaucoup rire. Bref.
Et des longues heures dans ce podcast.
Effectivement, beaucoup trop. D'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je pense que là on a fait le tour. Dernière critique, donc là on est sur un jeu un petit peu plus vieux, on est au début des années 2000. Nous sommes en 2002, je vous ai carrément donné la date. Du haut de mes 11 ans, le jeune joueur que j'étais commence tout juste à réaliser l'importance que le jeu vidéo prenait dans sa vie, et tout ce qu'il avait à offrir. Au cours d'une soirée pluvieuse et froide, en ce mois de mars de la même année, mon oncle, grand amateur de jeux vidéo, me propose de découvrir une nouvelle machine. Quel nom étrange pour cette machine, me suis dit-je, à la vue du mastodonte que celle-ci était. M'approchant de la bête, je me souviens encore de cette odeur caractéristique du plastique du monolithe noir. Au détour de la conversation...
C'est Halo ?
Bah ouais, c'est Halo, mais la critique est très longue. Mais c'était très drôle. Je l'ai lu en entier, hein, je me suis infligé ça. C'était donc un 10 sur 10...
Pourquoi pas ?
Alors là, c'est vraiment. On a la matrice du fan de Halo. Si on devait voilà trouver le point d'origine, tu vois, l'origine de ce qu'est un fan de Halo, c'est là-dedans. Il y a tout. Il y a tout ce qu'est un fan de Halo. Le kink de l'esthétique, enfin bref, il y a tout. Je vais pas rentrer dans le détail. Je vous mettrai peut-être le lien en description. Même si c'est un peu salaud d'afficher, quoi. Mais, au moins, il a kiffé. Il a kiffé.
Ça dit, j'ai retrouvé sa critique, son compte.
Ah non, mais 10 sur 10, vraiment. Et puis, il s'est vraiment fendu d'une belle critique, quoi. C'est une belle lettre d'amour à ce qu'est Halo. Est-ce que le jeu vidéo est capable de transmettre aussi donc, c'est franchement, je me moque gentiment parce que la critique est vraiment pas digne de moquerie. Hein. Au contraire, c'est particulièrement sincère.
Oui, et même en vrai, je suis sur le profil, ça va, il n'y a pas de goût douteux. En vrai.
À part ça, peut-être
va. Non, et même, bon, Halo, ça va, c'est pas non plus.
c'est correct.
Parce qu'il y a d'autres jeux qui me déplaisent dans son top 10, mais rien de.
Ah, bah, il y a du Dark Souls, du Mass Effect, du Witcher, tout ce que t'aimes, quoi.
Oui, mais voilà, c'est pas des trucs...
On va dire
voilà.
Que c'est consensuel.
Ouais.
Relativement ouais, consensuel.
Mais... Ouais, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas... je sais pas, il n'y a pas déterré une... J'ai pas d'exemple là de trucs...
Duke Nukem, on parlait de ça le mois dernier. Nukem Forever, quoi.
Ouais, c'est pourri. Non, je parlais... Moi, le truc qui m'interpelle toujours plus, c'est genre les jeux où tu dis « Ah oui, c'est vrai, ce jeu, il existe. » Tu vois, genre, il aurait dit...
Ça me rappelle l'épisode Infamous.
Ouais,
ah putain, c'est vrai, ouais.
Encore en SOS auditeur, mais ouais, Infamous ou Rise of the Tomb Raider, tu vois, quelqu'un qui me dit, ouais, mon jeu préféré, c'est Rise of the Tomb Raider, tu fais, ah ouais.
Okay. Ouais, d'accord.
Ou je sais pas, tu vois, genre, comment ça s'appelle
Sonic Racing. South Park, genre... le bâton de la vérité, ouais.
Ouais, voilà, quelqu'un qui va dire ça, c'est mon jeu préféré, tu fais genre, ah ouais, ok.
Bah, il est pas mauvais en plus, paraît-il, mais bon.
Oui, ah ouais, ouais,
mais c'est ça qui fait le truc, c'est que Infamous, il est pas mauvais non plus.
Ouais, mais c'est vrai que c'est le meilleur jeu.
C'est des bons jeux, mais ouais, qu'est-ce qui en fait le meilleur, c'est un peu un mystère.
Ouais, non, mais après, c'est la subjectivité a quand même quelque chose de fascinant.
C'est ce côté genre, ok, personne ne se souvient de jeu, mais pourquoi pas.
Mais au moins, alors là, pour le coup, ce que je dirais sur ce genre d'avis, c'est qu'au moins, on ne peut pas reprocher à ces gens de manquer d'originalité et de ne pas avoir de la singularité dans leur goût, parce que c'est des jeux que personne ne va mettre aussi haut. Et c'est tout à leur honneur, franchement, pourquoi pas.
Et c'est même pas pour se donner de la contenance, tu vois, parce que le mec qui veut se donner de la contenance, il met Shenmue.
Ouais, il met Spec Ops The Line.
Oui, non, mais enfin, ce que ça. Je veux dire, c'est... je pensais pour le coup à se donner de la contenance avec un unpopular. Spec Ops,
ouais,
c'est
ouais,
pas
ouais, non, mais clairement, je sais ce que tu veux dire. Ouais.
Bah, Spec Ops, il y a un côté, comment dire, prestige pas cher, alors que Shenmue, il y a un côté connoisseur, quand même.
Ouais, c'est plus vieux déjà, effectivement. Mmh. Ouais, ouais, non, mais clairement, je vois la sociologie que tu es en train de dresser, et elle se tient parfaitement. Bref, on va passer maintenant au cœur de l'émission, à savoir les critiques, avec pour ce mois-ci le focus qui était annoncé sur Resident Evil 4, et ce sera juste après la traditionnelle petite musique. Nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo. On va parler donc de nos jeux et à commencer évidemment par Biohazard 4, donc Resident Evil 4 en Occident, le remake du jeu tant attendu, du jeu culte même de Capcom, originellement sorti en 2005. Monique, tu confirmes ?
2005, oui.
Voilà. Probablement l'épisode le plus apprécié, moi, un des plus appréciés. Généralement considéré comme la matrice de tous les jeux d'action qui ont suivi. C'était compliqué de faire un remake de ce jeu-là, peut-être encore plus que pour les trois premiers Resident Evil. J'inclus le premier, même s'il est un peu à part, parce qu'il était sorti sur GameCube, le remake. Mais disons que le 4 s'inscrit beaucoup plus dans la lignée, évidemment, des remakes du 2 et du 3. Donc c'est le même moteur, c'est globalement la même approche de ce qu'est un remake. On peut dire que Capcom n'a pas déçu avec ces remakes-là. Moi, je trouve que... Je vais commencer simplement par dire un truc. C'est que en discutant avec mon camarade Karel, avec qui on fait Hémisphère, on s'est dit, en fait, souvent les jeux les plus réussis, les jeux vraiment les plus géniaux, ceux qui sont des masterclass absolus, comme je trouve que Resident Evil 4 est absolument, c'est des jeux qui sont parfois un peu... Tu fais les superlatifs, voilà, t'épuises un peu le registre de tous les compliments que tu peux faire au jeu. Et en fait, à part ça, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire, alors que des jeux qui te laissent parfois un peu de friction, qui ont un petit arrière-goût de « ouais, c'était pas parfait », ça te donne peut-être parfois plus envie de creuser. En fait, moi, Resident Evil 4, l'originel, c'est un jeu qui était clairement dans mes jeux préférés de tous les temps. J'adore ce jeu. Je l'ai refait plusieurs fois. Le remake, c'est exactement... il va remplir ce rôle-là pour moi. C'est un jeu que je vais refaire et tout. Mais je le trouve tellement juste dans tout ce qu'il fait, y compris dans les légers changements qu'il y a par rapport à l'original. léger, on s'entend, hein, puisque c'est quand même une réinvention totale avec tout ce que ça implique en termes de contrôle, de caméra, etc. Évidemment, je dis pas que c'est un simple remaster du tout, hein, mais on va dire que c'est la meilleure manière de remettre au goût du jour ce que faisait Resident Evil 4 à l'époque, à savoir un jeu qui ne te laisse jamais de temps mort et qui fait passer la série dans une autre vision de l'horreur, dans un registre différent. Et peut-être que Monique aura des trucs à dire là-dessus, puisqu'on en a discuté il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve que ça reste un jeu essentiellement d'action. J'ai aussi un peu lu que le remake renouait avec une certaine forme de tension horrifique. Je vais te passer la parole là-dessus pour aborder le jeu par un petit angle un peu différent du reste. Qu'est-ce que tu trouves de plus horrifique dans le remake par rapport à l'original ?
Alors, plus horrifique, je sais pas, mais il est plus sombre, ça c'est quand même.
Tu veux dire en termes de colorimétrie, du coup ?
Au niveau de colorimétrie ambiance, quand même.
Ouais, 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 d'accord. Dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Ouais.
Déjà, il y a un peu de ça. Mais après, je trouve que là où il peut faire un peu plus peur que l'original, c'est au niveau de la tension. Que là, je trouve, ils ont fait encore mieux que ce que pouvait faire le 4, que la série n'a jamais réussi à atteindre, même les Evil Within qui sont un peu à côté. Le côté sur le fil... là vraiment je l'ai ressenti quasiment tout le long du jeu et en ça typiquement enfin pendant tout le jeu enfin vraiment pendant les 15 heures à peu près que tu mets pour le parcourir, il y a toujours ce truc où tu dis ah putain je suis pas bien, ah machin, faut que je fasse gaffe, faut que je ramasse des trucs, faut pas que je gâche des balles comme un con et tout. Donc pour ça je trouve que c'est particulièrement réussi. Même les remakes du 2 et du 3, ils avaient pas alors, ça fonctionnait quand même hein, dans les autres, hein, je dis pas que voilà, mais là c'est vraiment très réussi et je pense que c'est un jeu qui peut faire beaucoup plus peur. En tout cas, sur moi, ça a beaucoup plus marché que alors, le premier. Alors, le 4 original, je le connaissais par cœur, donc voilà, mais enfin, en tout cas, j'avais pas ressenti ça sur un jeu depuis très longtemps, quoi.
Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, bah, ce que j'évoquais sur la vision de la peur et la tension que le jeu réussit à instiller, là pour le coup, on est vraiment sur un truc presque scientifique, genre une espèce de science du game design et du level design aussi, puisque ça joue énormément dans cette tension que tu peux avoir, ce que tu vas ramasser, comment le jeu te manipule aussi pour te donner plus ou moins de balles, plus ou moins de ressources selon ce que t'as besoin. Le principe de difficulté, on va pas revenir là-dessus, c'est hyper connu, mais Resident Evil 4 avait ce système déjà à l'époque de difficulté adaptative selon que tu réussis plus ou moins à tirer dans la tête, si tu meurs, bref. Il y avait cette idée-là qui était particulièrement cool, puisque le jeu ne te le dit pas, et donc t'as quand même le sentiment de triompher de ces obstacles par toi-même, et c'est une des grosses qualités aussi du jeu, ce sentiment-là, comme tu l'as très bien dit, Monique, de toujours être sur le fil du rasoir et d'y arriver vraiment, mais tout pile, enfin tout juste. Et donc il y a cette satisfaction, ce soulagement quand tu passes une séquence un peu difficile. Je pense dès le début dans le village, il y a la séquence culte de l'attaque de la maison avec donc tu peux barricader les fenêtres, etc. Cette séquence-là, elle m'avait déjà beaucoup marqué à l'époque. Je trouve que dans le remake, elle fonctionne encore mieux puisque là pour le coup, genre vraiment le côté putain c'est la merde, tu le ressens mais dès le début quoi. Et c'est ce genre de moment que je trouve le remake réussit à sublimer encore par rapport à l'original. Et on va pas être très original puisqu'on va se contenter de dire bah oui ça c'est mieux, c'est plus réussi, etc. Mais au final, le jeu reste quand même relativement fidèle. Et le but c'est pas non plus de vous spoiler les quelques nouveautés, les quelques séquences qu'il arrive à créer par rapport à justement l'original. Il y a quelques petits changements. Mais globalement, je trouve que le jeu reste relativement fidèle tout au long de sa progression. Les moments forts sont tout à fait reproduits. Il y a rien enlevé, quoi. Alors que justement, le 3, enfin, moi je trouve que le 3 avait quand même pâti du fait d'amputer une partie du contenu du jeu d'origine, de modifier. Bah écoute, j'ai pas fait le 3 original pour le coup, j'ai fait que le remake. En plus assez récemment, donc moi j'ai adoré hein, le 3 remake, j'ai trouvé super réussi, j'ai trouvé vraiment c'était la passerelle parfaite pour amorcer ce que le 4 est devenu, Mais du coup, j'ai vu beaucoup de gens râler quand même sur la séquence du beffroi, ou je sais plus c'est quelle séquence qui a été retirée.
Oui, c'est ça. Honnêtement, ça représentait pas grand chose. J'avais refait le 3, à peu près dans la foulée de quand j'avais refait le 2. Donc c'était été 2018, le jeu était sorti en 2020. Je me souvenais à peine du beffroi, très franchement.
Ah ouais, ouais. C'est pas très marquant.
Voilà, c'est pas un moment que dans ma tête qui était vraiment marquant. Après, le premier Resident Evil 3, c'est pas non plus un jeu que j'aime beaucoup. Mais tu dis quand même qu'ils ont rien retiré et qu'ils ont pas changé grand chose. Ils ont changé beaucoup, beaucoup de petits trucs.
Ouais, c'est ça. C'est pas l'idée, c'est pas de dire c'est un remaster, hein, encore une fois.
Non, du tout. Ils ont rajouté des grosses parties. Après, ils ont quand même coupé pas mal de trucs.
C'est vrai que dans le gameplay en tant que tel, il y a des nouveautés. Bah, typiquement, le couteau qui se casse, le fait de pouvoir contrer les ennemis.
Je parlais pas forcément du gameplay, mais on va dire des trucs dans le jeu. Il y a quand même des trucs qui ont disparu. J'avoue que je suis un peu étonné de certains trucs qui ont sauté. Je sais pas trop pourquoi.
Qu'est-ce qui a sauté, par exemple?
Le combat, comment ça s'appelle, le combat avec les espèces d'échafaudages et de conteneurs.
Dans le village?
Après le combat dans les égouts. Quand t'as le serviteur de Salazar en deuxième forme.
Ouais, d'accord.
Ça, il n'y a plus. Bref, des trucs comme ça.
Oui, c'est vrai, j'y avais même pas pensé, tu vois.
Après, ils en ont rajouté d'autres, donc on va dire que tu te sens pas lésé, hein. Ça c'est vraiment pas le truc.
Le jeu est très long pour un Resident Evil, hein, quand même, c'est hyper généreux, quoi.
Il fait 15 heures
en ligne droite, c'est quand même long, quoi.
Ouais, et après, dans les autres trucs aussi qu'ils ont changé, c'est pas forcément dans le contenu, dans le gameplay et tout, je trouve qu'au niveau du ton, le jeu, il est moins du con que le... Voilà, j'arrive pas jusqu'à dire balai dans le cul, mais un peu quand même sur certains trucs. Je pense typiquement au moment où Léon il arrive devant Ramon, je crois il s'appelle, devant le petit Napoléon là.
Ramon.
Sur GameTube, il appuie sur un bouton, il y a une trappe qui s'ouvre, il s'accroche, Léon il lance un grappin, machin.
Quand il tombe tout au fond là, dans les grottes.
Voilà, il y a ça. Ramon, il ramène un petit truc à son oreille et Léon, il tire dans le truc pour l'insulter. Et voilà. Par exemple, ils ont perdu le côté un peu denté de Léon. Ils ont fait un
clairement,
truc.
Clairement, ouais. Ils l'ont pas totalement perdu non plus. Hein. Je trouve qu'il y a des séquences encore qui pètent la classe à la denté, justement. Mais oui, c'est le jeu. Ils ont retiré un peu du côté foufou des cinématiques.
Voilà. Voilà, ils ont un peu enlevé des petites conneries comme ça.
Mais le côté photoréaliste aussi, je pense que c'était peut-être plus compliqué de garder des trucs de ce style-là, alors que le jeu est vraiment photoréaliste, quoi.
Après,
tu vois ce que je veux dire, peut-être.
Après, l'autre truc que je rajouterais aussi rapidement, c'est... Enfin, là-dessus, c'est typiquement... au point où on en est dans RE4, toi, je me dis, autant y aller, quoi. Ils y sont pas tant allés que ça.
Oui, c'est juste, ouais.
Et c'est ça, c'est des fois, du coup, c'est vrai que t'ajoutes à ça le côté un peu photoréaliste, même si, voilà, c'est pas non plus le top de la techno RE4, là. Il y a un côté, ouais, un peu aussi Uncanny Valley, aussi, parce que ça reste quand même un jeu de clown, hein, faut reconnaître.
Bien sûr, c'est vrai que oui.
Même s'ils ont retiré 2-3 autres clowneries aussi, comme ça.
C'est la fête foraine, c'est du début à la fin, c'est la fête foraine ce jeu. Hein.
Ils en ont un peu retiré, tu vois, le golem géant qui marche dans l'original, ils l'ont enlevé, bon, ils ont mis un autre truc de clown aussi, tu vois.
Mais c'est ça aussi qui fait que je trouve le jeu, pour moi, c'est une de ses grandes qualités, tu vois, ça a été dit mille fois, mais c'est un train fantôme, quoi. Il y a un aspect grand 8, quoi. Je saurais pas comment le dire autrement. Le truc fait des hauts et des bas, et donc tu t'ennuies jamais.
Mais après, moi, c'est juste sur l'équilibre, on va dire, un peu du con, un peu sérieux, que j'ai un peu moins aimé ce qu'ils ont fait. Là où je trouve quand même que l'original, ils avaient vraiment touché un truc parfait. À la fois très premier degré et en même temps
très rigolo. Ouais.
Il est c'est Dante, c'est Cobra, c'est Bayonetta, ouais. C'est toujours à peu près le même personnage, quoi, dans ces jeux.
Ouais, totalement. Ouais. Mais un des points quand même je pense qu'il faut le dire, même si il suffit de lancer la démo du jeu pour s'en rendre compte. Pour moi, c'est un des trucs qui est incroyable dans ce remake, c'est justement le gunfeel. Ça faisait depuis, comment s'appelle ce jeu ? Depuis Deathloop, que j'avais pas pris autant de plaisir à tirer avec des armes à feu dans un jeu. Et comme c'est l'essentiel de la core gameplay loop du jeu, bah, c'est quand même important. Et c'est pour ça, en fait, je recommanderais presque aux gens qui aiment pas les jeux d'horreur, tu vois. C'est un jeu hyper fun à jouer, quoi. C'est vraiment un plaisir de chaque instant de juste tirer sur les ennemis.
Là aussi, je nuancerais, hein. Parce que
tu nuancerais ça, ouais.
Ah ouais, parce que typiquement, comparé au 3, quand même, je trouve le 4 moins plaisant en main.
Non. Le 3, c'est quoi ? C'est l'esquive que tu trouves qui rend le truc meilleur.
L'esquive,
c'est quoi ?
La manière de bouger le perso et tout.
Ah ouais, carrément. Ah non, là, non Léon, moi, je trouve que. Ah là, non, Léon, moi, je suis pas d'accord. Je trouve le 4 meilleur là-dessus.
Je trouve, Léon, il y a un petit souci. Enfin, petit souci. Un truc que j'aime pas plutôt, c'est l'accélération de sa course. Dans le 4 original, globalement, t'avais une accélération très rapide. C'était quasiment dès que tu te m'as sprinté, t'es à 100%. Là, globalement, tu le sens un peu accéléré et tu peux moins te servir du sprint comme
pour esquiver. Ouais. Alors ça, justement, le jeu ne permet plus autant d'esquiver
après,
en sprintant.
Après, j'entends le jeu à un contre, donc faut jouer avec.
Bah oui, mais clairement, ouais.
Bah oui, non, mais c'est...
Moi, je trouve que le contre, ça rend le truc plus dynamique. Enfin, j'ai fait le 3 dans la foulée du 4, mais je l'ai même fait en parallèle, en fait, puisque le 4, je l'ai fait avec ma compagne, et le 3, je l'ai fait tout seul, et j'y jouais en parallèle, et en fait, j'ai vraiment adoré le 3, mais justement, quand je revenais au 3, je trouve que l'esquive... Alors, il y a un côté sympa à maîtriser, les ralentis, l'esquive, etc., mais je trouve que le contre du 4 a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, et globalement, je trouve le perso plus agréable à contrôler, quoi. Mais
après,
là, on est sur du ressenti, quoi.
Après, j'ai quand même préféré le 4, hein. Attention.
Oui, bah oui, oui.
Mais juste, je trouvais enfin, Jill dans RE3, c'était parfait, quoi. C'est l'un des personnages les plus agréables que j'ai eu à bouger dans un jeu vidéo, quoi.
Ouais, non, mais c'est très réussi également, hein, mais je trouve que c'est encore mieux avec
Léon. Ce qui n'était pas le cas des persos du 2, par exemple. Les deux,
clairement pas. Que ce soit la meuf ou Léon.
C'est ça, et pour le coup, je trouve que RE4, il est un peu mieux que RE2 au niveau des contrôles des persos, mais...
Ça se défend. Un point
après,
que...
Ouais, après, après, jeu quand même très jouissif, il y a du sang partout, des démembrements, on est heureux, attention.
Évidemment, le mode mercenaire, je vous invite, si vous n'avez pas relancé le jeu...
Et en mercenaire, c'est un régal aussi. Ouais.
C'est un régal absolu. Et d'ailleurs, bon, il y a un point qu'on n'a pas mentionné, mais c'était aussi le cas du jeu d'origine. Donc, peut-être que ça se répète par rapport à d'autres critiques que vous avez déjà entendues. Mais moi, ce que j'adore dans RE4, par rapport au 3, justement, bah, que j'ai fait en plus, qui se compare directement, parce que c'est également un remake, c'est que bon, bah, le 3, c'est les égouts, c'est la ville, c'est les environnements classiques de Resident Evil. Là, le 4, c'est la fiesta, quoi. T'as tout dans ce jeu en termes d'environnement. Il y a du The Thing, il y a du Lovecraft, il y a la colline à des yeux, il y a toutes les ambiances dans un seul et même jeu. Et ça en fait pour moi une espèce de jeu synthèse, tu vois, d'espèce de somme absolue de ce que les différentes ambiances d'horreur ont pu porter dans l'histoire de l'art, quoi, en quelque sorte. Je trouve que le 4 a vraiment un côté beaucoup plus... Chacun y trouvera ce qu'il aime. Et d'ailleurs, Carole, qui n'aime pas du tout les trois premiers Resident Evil, pour le côté vraiment trop urbain, SF, laboratoire, Umbrella... Le 4, justement, alors il y a quelques trucs sur Umbrella, mais c'est quand même vachement en retrait. Il est beaucoup plus gothique dans son esprit, dans son ambiance, tout en ayant ce côté clownesque, évidemment, que tu mentionnais, Monique. Mais ouais, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus varié en termes d'ambiance. Et en tout cas, moi, perso, ça me parle plus, quoi.
Ah oui, clairement, c'était l'un des trucs qui rendait le jeu original légendaire, hein. C'était jeu omnibus où il y a tout là-dedans, quoi.
Bah ouais, et le 8 avait essayé de reproduire un peu. En fait, c'est en faisant le remake du 4 que je me suis rendu compte à quel point le 8 lui rendait hommage.
Quand même, c'était.
Oui, non, mais c'était évident. Mais c'est vrai qu'il y a.
Il appuyait pas mal quand même.
Ah oui, non, mais c'était. De toute façon, il s'appelle Village, donc il y a pas de débat sur le. Il y a pas de litige là-dessus.
Oui, et même les environnements, le château, le marais.
Ouais, non, mais il y a même dans des petits détails que j'avais pas forcément reperçu en faisant le 8. Je connais moins bien le 4 originel que toi. J'ai dû le faire deux ou trois fois. Mais même si je l'adore, je trouve que justement le 8 essaie de renouer avec ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'adore le 8 et que c'est peut-être mon préféré des derniers jeux, quoi. Hormis les remakes.
Ah oui. Ouais, bah,
ouais, ouais
du...
non, mais si je prends si je prends le à partir du 5 5 6 7 8, je crois que le 8 c'est mon préféré quoi. Même si le 6, bon, il a un petit côté plaisir coupable. On en avait fait un épisode d'ailleurs pour les gens qui se souviennent.
Il a son charme.
Il a son charme. Et en plus, il a un mode coop qui a voilà tout son toutes ses qualités. Bref, on va pas laisser Mikael s'endormir en continuant sur Resident Evil. Je vous propose donc de passer la parole à Mikael qui ah bah Attends. Non en fait tu t'as pas de jeu ce mois-ci Mikael.
Alors en vrai.
Et rapido, ça attend deux secondes. Pour rester sur R4, Mikael.
Ah pardon, j'ai carrément coupé court. Excusez-moi,
vas-y.
Voulais,
rapidement, parce que sur R4, Mikael, j'ai vu, tu avais. Il me semble que t'aimes bien le 4. Et du coup, là, le remake, il te fait pas du tout envie.
Si, pour le coup, il me fait quand même un petit peu envie. Mais je t'avoue qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeux.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ça, je comprends. Ouais.
Et il me fait envie, mais je suis pas jeu d'horreur. Alors, après, j'entends tous les arguments. Je vous ai
c'est un jeu d'action,
hein. Écouté. Et oui, c'est vrai que bah, déjà, tu regardes des Resident Evil que j'ai fait. Pourquoi le 4, je l'ai bien aimé et pourquoi j'en ai pas fait une grande partie. C'est parce que le 4 m'avait l'air d'être beaucoup plus action. Et en vrai, ouais, le remake me tente pas mal parce que j'ai une petite nostalgie de RE4. J'avais voulu y retourner il y a déjà quelques années et ça a horriblement bien mal vieilli, pardon. Oh. Donc ah ouais non.
Bah le côté, il y a beaucoup de gens qui bloquent sur le fait de pas pouvoir tirer en bougeant.
Bah désolé, moi c'est ça.
Ouais,
je sais,
ouais
c'est
non,
un peu basique,
je comprends.
Mais du coup non
là,
le
là tu peux le faire
hein,
dans le remake. Tu peux.
Ouais non mais je sais. Ouais. Ouais. J'ai vu tourner et tout et je me dis why not.
Après faut quand même prévenir Mikael, si t'es pas trop jeu d'horreur quand même.
Il est un peu plus sombre, ouais.
Voilà.
Mais bon, ouais, ça
non,
reste un
je
jeu
sais,
d'action.
C'est pour ça que je l'achète pas neuf et que j'attendrai de trouver un bon plan, quoi.
Ça parce reste que... un jeu d'action, en vrai.
C'est là parce qu'il faut pas mentir aux gens. Voilà, j'ai quand même vu des gens qui disaient, ouais, R4, c'était le seul Resident Evil que j'arrivais à faire. Et là, je suis terrifié. J'ai aussi lu des avis comme ça. Hein, donc,
Ah ouais, ok.
Et enfin, que sur la démo, avec effectivement le village qui envoie pas mal, quoi.
Pourtant, le village, pour le coup, c'est... Alors, il y a le début qui est dans la nuit, mais ça se passe quand même en plein jour. Hein.
Oui, mais le stress...
ah oui, non, mais c'est...
Genre que ça met pas bien. Et là, et c'est quand même... On va dire, je t'invite quand même à tester la démo, voir ce qui t'attend, quoi.
Mmh. Bah, la démo est gratuite et elle est encore disponible, donc je pense que ça vaut le coup, ouais. Complètement.
Voilà.
Voilà, voilà. Bon, bah écoute, Mikael, ce sera... Tu nous feras un retour, un
bah,
de ces quatre.
En vrai... Oui, et sinon, si je peux enchaîner avec un jeu...
Bah oui, vas-y, pardon, je t'avais passé la parole.
Je me suis fait Catherine, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui m'avait fait peur sur sa difficulté, et qui finalement, avec sa version full body, où ils ont ajouté un personnage, mais aussi apparemment des options d'accessibilité, je l'ai fait en normal, sans aucune difficulté, donc je pense pas être un roi du puzzle game, bien au contraire. Donc je pense plutôt qu'il l'a rendu plus accessible. J'ai adoré le côté un peu visual novel du jeu, et je vais pas en parler plus longuement, parce qu'en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, la grande annonce, c'est que j'ai relancé Persona 5 Royal.
Ah l'arc et, Persona de Mikael.
Et que je suis à peu près à 40 heures, et wow. Petite confession, depuis le début du podcast, je joue.
Eh ben,
je suis
c'est
dans le memento
bien.
Là, en train de faire un peu d'XP pour avancer plus
mais
vite.
Mais ils ont simplifié. Alors, est-ce que tu as débloqué la compétence de Ryuji qui permet de faire les combats sans les faire
Alors, je crois, mais.
Tu fonces sur les ennemis et ça les bute, tu prends l'XP.
Ah, non, ça par contre, je ne sais pas.
Alors, il faut
pas
absolument
vu.
Le débloquer, ça va te simplifier la vie, mais. Mais tu vas halluciner, ça y était pas dans le jeu d'origine. Faut que je te renvoie éventuellement le lien d'une soluce, c'est vraiment très simple. C'est une compétence que tu débloques, me semble-t-il, je suis quasiment sûr, avec Ryuji, quand okay. Tu développes son lien, donc son social link, et qui te permet, donc dans le memento, pour les ennemis qui sont d'un niveau inférieur au tien, de juste passer en bagnole dessus. Et tu gagnes instantanément l'XP et la thune que tu aurais gagné si tu avais fait le combat.
Ok.
Ce qui te permet de farmer de façon instantanée, en fait.
Je note, mais sinon, toujours aussi bonne sensation sur le jeu. Clairement.
Ah bah oui, c'est quand même un super jeu.
La musique, le côté un peu... Bah tu vois, j'y suis retourné pour le côté visual novel, et c'est vrai que ça marche toujours aussi bien. Il y a toujours le phénomène que Monique appellerait on est à 5 et oh mon Dieu, cette porte est fermée. Effectivement, elle est verrouillée. On ne va pas pouvoir passer. Tu es sûr? Oui, elle est bel et bien fermée. Donc ça gave un peu en termes de dialogue.
C'est clair.
Le skippage agile de dialogue, tout un art.
Et je suis tombé amoureux de la DA à tel point que je vous avais dit que j'avais fait mon Yonkli sur un truc.
L'artbook.
Exactement. Ah. Non, j'ai pas acheté un immonde amiibo. C'était la théorie de la team Radio Ibrius au départ. Faut pas déconner, je me respecte encore un petit peu, mais j'ai claqué. Je crois que c'est 40 balles l'artbook. Il est hors de prix.
Acheter 20 balles au Japon d'occasion.
Ouais, mais il est en japonais, il est d'occasion, non?
C'est un bouquin avec des dessins. Ouais.
T'as un peu de texte quand même. Le mec te dit pourquoi il a fait tel design, etc. Donc,
c'est intéressant.
J'ai fait mon Yonkli sur l'artbook et je suis très content, mais ma vie est actuellement une course contre la montre, étant donné qu'il y a bientôt le Zelda qui va sortir et que
après il y a FF16.
Oui, et heureusement que merde, le jeu qui est dans le Game Pass qui sort au début du mois mais qui finalement risque d'être naze. Heureusement que Redfall finalement c'est peut-être un pétard mouillé, parce que sinon j'allais être face à des choix de vie compliqués.
Il y a Diablo 4 qui arrive juste avant FF16 aussi. Hein.
Ouais, c'est dans un mois et demi, ça va.
Ouais, je suis pas pressé, voilà.
Il y a ça. Non, on est dans une sauce là niveau sortie. Pareil, mercredi, il y a le DLC de Xenoblade 3.
Ouais, putain, et j'ai commencé.
Star Wars aussi qui sort bientôt.
Ouais. Est-ce que c'est Jedi Survivor?
Est-ce que c'est pas un jeu que tu prends à 20 balles?
C'est possible.
Franchement, j'avais bien aimé le premier Jedi Fallen Order.
Ouais. Tu l'as fait sur Game Pass.
Exact. Et alors, le premier... Non, mais attendez, parce que peut-être l'astuce sera encore valable sur le 2. Mais le premier, il y avait le système de EA Origin Access. Voilà.
Access, ouais.
Exactement, qui te permettait donc de jouer au jeu pour l'abonnement de Origin Access qui coûtait, il me semble, 10€ par mois. Donc il te suffisait de prendre un mois d'abonnement sur PC.
Mais il est inclus au Game Pass maintenant, cet abonnement?
Je crois que c'est un abonnement avec un supplément. Faudrait vérifier.
Ah ouais,
ouais, je crois. Ou alors le Game Pass Ultimate. Mais moi, j'ai que le Game Pass PC de base. Donc à vérifier, mais je saurais pas dire. En tout cas, il y a peut-être moyen d'y jouer pour vraiment pas cher. Et je l'avais fait du coup au moment de sa sortie pour littéralement 10€. Donc peut-être que c'est possible aussi sur le 2, mais encore une fois, je suis pas certain d'y jouer parce que je vais pas trop avoir le temps. J'attends fermement le DLC de Xenoblade. J'ai presque fini le DLC de Fire Emblem. J'en ai pas parlé parce qu'on a déjà beaucoup parlé de Engage. Le DLC est à l'image du jeu, hein, mortel. Tu y as joué? Je sais pas si t'as eu le temps, Monique, de tester le DLC dans le puits.
Non, mais parce qu'il me semblait, oui, voilà, que c'est intégré à la quête principale, donc faut tout refaire.
Il suffit que tu reprennes ta partie et que tu ailles au puits de Somniel.
Ouais, mais j'ai tous mes persos niveau max.
Et alors, je crois que le truc est scalé, non?
J'ai pas regardé, moi, comme j'ai cru que c'était lié à la quête principale, je me suis dit, ouf, comme je referais bien le jeu comme un zinzin, je referais tout, quoi.
Ok, d'accord. Il me semble que c'est scalé parce qu'en fait la difficulté est séparée. En fait, quand tu sélectionnes donc le DLC, tu vas dans le puits, il te propose une difficulté vraiment pour le DLC, facile, normal, difficile. Et il me semble que c'est scalé en fait sur tes persos.
Bah écoute, j'avais mal compris. Entre temps, j'ai rejoué à d'autres trucs, mais.
C'est intégré à la quête principale, ouais, effectivement. C'est pas tout à fait comme le DLC de Three Houses qui était vraiment à part pour le coup.
Écoute,
très bien.
Après, les gros trucs qui arrivent. Là.
Ouais, c'est ça. Hein. Je touche vite fait deux mots sur Lost Judgment qu'on a déjà évoqué dans ce podcast. Simplement pour dire que je suis en train de refaire le jeu en mode série télé et que ça s'y prête admirablement bien. Vraiment, c'est incroyable comme ce jeu est bien écrit. Là, pour l'instant, du coup, on fait que la quête principale. J'avais jamais fini les intrigues de lycée. Ce sera peut-être l'occasion de s'y remettre. Mais en tout cas, le scénar principal, même en sachant un peu où est-ce que ça se dirige, est toujours aussi bien écrit, admirablement bien rythmé, avec des rebondissements très très bien sentis. C'est vraiment un jeu mortel à faire comme une série, quoi. Ça se déguste vraiment comme une série. Et point positif quand même pour un jeu de la team Yakuza, c'est que enfin les combats sont cool, c'est pas du RPG, c'est du action, du beat'em up. Et putain, mais je me surprends à kiffer encore les combats. Alors, avec notamment le style du serpent qui permet de faire des contres assez jouissifs.
Alors ils sont à aucun moment déplaisants, c'est déjà beaucoup, mais bon, t'en raffoles pas non plus quoi.
Alors je dirais pas que j'en raffole, mais
tu fais pas un détour pour aller faire un combat.
Non, tu fais pas un détour pour aller faire un combat. Quand tu te prends des combats dans l'histoire principale, tu râles pas, alors que dans les Yakuza, franchement, des fois, tu râles.
T'as un peu le seum, mais après, t'es quand même bien content d'avoir le skate pour les Veski aussi.
C'est vrai, non, pour les combats de rue, je suis d'accord, mais pour les combats du scénar, franchement, je prends plaisir à les affronter, que ce soit les boss ou les groupes d'ennemis, comme il y en a souvent. Et le jeu est vraiment sublime aussi, putain, ça donne tellement envie, parce que là, du coup, je prépare mon voyage au Japon en même temps. C'était un peu le truc de bandeur du Japon, de replonger là-dedans.
C'est ça, le plaisir de Yakuza.
Ouais,
bah, hein.
C'est ça, hein, Yakuza, c'est le kiff de ce truc-là. D'ailleurs, petite recommandation au passage, le livre de Sœur d'édition qui est sorti il y a déjà quelques années, qui s'appelle Japon, voyager au Japon, du pixel au réel. C'est un guide de voyage du Japon qui est particulièrement original, puisqu'il se propose donc de faire découvrir des lieux à travers le prisme du jeu vidéo. Donc l'idée, c'est voilà, de prendre des jeux emblématiques et de décliner la version réelle des endroits qui ont inspiré les jeux. Donc c'est vraiment, vraiment très cool. Ça permet de sortir un peu des guides touristiques habituels et de préparer son voyage avec voilà, des lieux à aller visiter, les endroits de Persona 5 justement dans Tokyo, qui sont qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce qu'on trouve dans le jeu. C'est vraiment bluffant. Donc j'ai déjà fait ma petite liste des endroits que j'ai envie d'aller voir à Tokyo.
Rapidement, pour nos auditeurs les plus jeunes, alors au XXe siècle, les gens, ils achetaient des livres avant de partir en voyage.
Voilà,
parce qu'il n'y avait pas Internet. Voilà.
Tout à fait, exactement. c'est le seul guide touristique que je me suis dit que j'allais acheter, parce que là, pour le coup, c'est pas un guide traditionnel, hein, ça, tout le reste, on a sur Internet. Non, puis là, c'est un plaisir aussi de lecture, puisque tu découvres des jeux, tu découvres... c'est vraiment un bouquin sort, quoi.
Il n'y a pas de problème, les auditeurs et les auditrices sont au courant, voilà, de ton goût pour les choses anciennes.
Les vieilleries. Ouais, ouais, bah, genre... écoute, t'iras dire ça à Sœur d'édition. Je note.
On rappelle, Pierre, il a acheté une PS5 pour regarder des Blu-ray, il a dit « Oh, il me faut la télécommande pour aller avec ». Et il est tellement vieux dans sa tête qu'il dit même pas télécommande, il dit zapette.
Zapper.
C'est tout.
Je dis zapper.
C'est tout pour moi. Voilà.
Le bâtard. Mais n'empêche qu'elle me sert bien, cette télécommande de PS5. Alors, gna gna gna. Taisez-vous. Laissez-moi kiffer ma télécommande. Bref, je vais te passer la parole, Monique, puisque tu voulais quand même nous parler d'un jeu qui a été injustement assez silencieux dans l'actualité. C'est Bayonetta Origins, qui voilà, a l'air quand même assez cool. Tu y as joué, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, injustement, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé, on va dire ça comme ça. Enfin, rapidement, vu tous les jeux qui sortent, je comprends que le jeu, beaucoup de gens se soient pas trop intéressés au truc. C'est
vrai que déjà, Bayonetta 3 avait pas non plus fait un bruit monstrueux, donc bon.
Oui, et même là, on dit qu'il y a des dingueries qui arrivent, mais rien que derrière nous, il y a quand même beaucoup de gros trucs.
Ouais, clairement.
C'est normal aussi, mais... je fais rapide, hein, je tente le 5 minutes top chrono. Alors du coup, Bayonetta 3...
Bayonetta Origins.
Bayonetta Origins and the Lost Demon.
Ouais,
non,
c'est raison.
Non exact. Alors, le jeu, il avait été teasé dans Bayonetta 3. Il y avait moyen de débloquer une espèce de micro-démo. Quelques semaines après la sortie de Bayonetta 3, genre, je crois que c'était au Game Award, ils annoncent le jeu. Les gens, voilà, ils font « Oh, surprise! Oh, tiens, ça change. Bizarre, ce jeu. » Et à noter aussi rapidement, là, en guise d'intro, le directeur du jeu, il s'appelle... ABB Tinari, voilà, c'est pas, il me semble que c'est un Canadien, mais en tout cas, voilà, c'est un petit jeune, c'est le premier jeu qui, petit jeune, on se comprend, c'est le premier jeu qui dirige, et avant ça, il est bossé sur Star Fox Guard, souvenez-vous, personne s'en souvient,
non,
et Scalebound, voilà,
Scalebound, oui,
si, carrément, si, Scalebound,
bah ouais, voilà,
l'autre, par contre, tout le monde l'emmerde, hein.
Ouais, oui. Ah, il est mort avec le store de la Wii U. Et pour les quelques bandeurs qui avaient Star Fox Zero en boîte. Voilà, bref. Rapidement, je vais commencer déjà par résumer, on va dire, l'histoire du jeu. Alors déjà, c'est un prologue, non, une préquelle, voilà, comme on dit. C'est une préquelle au Bayonetta 1, du coup. Là, on joue la petite Bayonetta, donc, qui s'appelle Cereza. Elle doit aller libérer sa daronne, et pour la libérer, il faut aller chercher une magie. La magie, elle est au fond d'une forêt interdite. Il y a sa prof qui fait « Oh non, Cereza, je t'interdis d'aller dans la forêt. » Du coup, elle va dans la forêt, elle fait des petites sortes de magie, ça invoque un genou qui va posséder son nounours. Et voilà, dans la forêt, ça fait peur à Grou-Grou les monstres. Et pour se guider à travers la forêt, elle va suivre les pas d'un loup, voilà, qui laisse des petites traces, on y reviendra. Visuellement aussi... J'y connais pas grand chose en peinture, mais ouais, c'est genre style aquarelle, quoi. C'est du cel shading, style aquarelle, quoi. Donc, c'est assez joli. Et on va dire, il y a une petite ambiance un peu spooky, rigolote. J'ai vu le thème Tim Burtonesque. Pour plein de raisons, on pourrait dire, ça n'a rien à voir avec ce que fait Tim Burton. Mais bon, globalement. Les gens normaux, ils vont dire « Ouais, ok, c'est Tim Burton, j'ai vu. » Voilà. Et un autre petit truc sur la présentation, on va dire, musicalement, l'OST, elle est super belle. Elle est super variée et tout. Après, je reconnais, il n'y a pas grand-chose de très singulier au jeu. Et après, vous me direz, mais comment ça joue au
final ? Ça DA quand même quelque chose, je trouve. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit sur les trailers, il y a une patte, quoi.
Ah ouais, non, La DA, elle est chouette. Là, je parlais plus de la musique qui est très jolie, hein, par contre.
D'accord, mais, qui n'est pas particulièrement original. Ouais.
Voilà. Il y a des petits clins d'œil aux anciens jeux et tout. Mais après, clairement, le jeu est super beau. Il tourne super bien. Il y a des effets de particules. Je pense des particules. Mais bon, les techniciens, ils vont peut-être me corriger. En tout cas, il y a des chouettes effets visuels dans le jeu. Comment ça se joue, vous me direz. Du coup, la particularité de ce jeu, c'est qu'on va contrôler... avec un Joy-Con, mini Bayonetta, donc avec un stick et les deux gâchettes, et sur l'autre Joy-Con, avec l'autre stick et les deux autres gâchettes, on va contrôler du coup Chouchou, donc la peluche possédée par un genou. Vous suivez toujours.
Oui, on suit.
Et voilà, donc, il va falloir déplacer les deux personnages en même temps. C'est un petit peu confusant, on va dire, pour ceux qui ont joué un peu à Brother, ou pour les plus acharnés d'entre vous, à Nintendo Land, le mini-jeu Animal Crossing, on se sait. Donc ça, c'est pour les contrôles. Au niveau du gameplay aussi, il se découpe par une succession de petits puzzles, puis une petite arène, puis un petit puzzle, puis une petite arène. Dans l'idée, c'est un peu du Beautiful Joe, Wonderful 101. On pourrait même voir ça comme une version un peu 2D de Bayonetta ou de Astral Chain. Mais en version assez cosy, hein. C'est pas un jeu qui va demander de scorer tout ça, quoi. C'est quand même un jeu assez feel good. L'autre truc qu'il y a à dire aussi sur le gameplay, c'est par rapport, on va dire, à la map. Donc la map, faut voir ça comme un grand labyrinthe. On va parcourir des petits couloirs, des petites artères qui vont se regrouper vers des gros hubs, des cœurs. On va dire ça comme ça. Quand on arrive à ces cœurs, à l'intérieur, il y a un sanctuaire, ça rappelle un peu Zelda, du coup. Ça va enlever le flou sur la map et on va débloquer un point de sauvegarde et un point de TP. Donc ça, c'est clairement le petit côté un peu Zelda. Au fil de l'aventure aussi, pour débloquer des passages, on va voir les capacités de la peluche qui vont s'upgrader, tout ça. Ça va occasionner un peu de backtracking. Et en gros, il y a un côté un peu Metroidvania qui va s'ajouter à ce Bayonetta Origin. Et du coup, qui dit Metroidvania dit labyrinthe. Et le côté labyrinthe, il fonctionne tellement bien que en vrai, on est souvent perdu, souvent désorienté dans le jeu. Et c'est pour ça que le loup blanc évoqué dans l'intro, où en gros Chouchou et Cereza, ils vont suivre dans l'histoire un loup blanc qui va un peu les guider. Nous, ça va nous aider aussi à nous repérer, parce que normalement, il va toujours avoir des petites traces de pas blanches qui vont toujours nous mettre dans le sens de la quête principale. Et du coup, que ce soit les contrôles ou la progression sur la map, il y a un côté un peu désorientant. Et le truc, c'est que et le labyrinthe et les contrôles, certes, c'est désorientant, mais on arrive à s'y faire. Voilà, on arrive à le dépasser. Et en ça, ça évoque un peu, ça rejoint un peu une thématique commune à tous les Bayonetta, ce délire d'émancipation et de reprendre le contrôle. Et même d'un autre point de vue, le côté confusant du jeu, il est raccord avec l'histoire avec l'histoire du jeu, parce que le
personnage est perdu, quoi.
Le personnage est perdu et le loup blanc qui, justement, il y a une relation un peu ambivalente dans l'histoire de est-ce qu'on le suit, tout ça. Le côté rassurant et inquiétant du loup, en plus, qui te guide. Ça se raccorde aussi avec le côté un peu conte qui essaye de raconter l'histoire. Et du coup, c'est parmi les trucs qui ont été reprochés au jeu, globalement, c'est les contrôles qui sont un peu bizarres et le fait que le jeu, ça soit un peu le bordel, tu ne saches pas où aller, à moins de suivre le blanc. Et du coup, je trouve que ce n'est pas des très bonnes critiques à faire au jeu, parce qu'au final, le jeu, il en fait des éléments de narration. Donc, voilà, je trouve la proposition assez forte et assez réussie. Moi j'ai beaucoup aimé, même si je reconnais les premières heures c'était cafardeux de ouf, mais comme il est chouette aux yeux, comme il est chouette aux oreilles, et qu'en main il y a quand même un vrai plaisir une fois qu'on arrive à s'y faire, écoutez, le jeu on ne lâche pas. Hein. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. Voilà.
Écoute, merci Monique pour cette belle critique qui rend honneur au jeu et qui au moins a le mérite d'être entré en profondeur dans ce qu'il a proposé.
J'essaie d'expédier ça. Hein.
Non, mais c'est bien, t'as été assez rapide en plus.
J'ai besoin de reboire de l'eau.
Oui, normal, c'est le principe de parler longtemps à l'oral, ça fatigue, mais en tout cas, merci beaucoup, et puis je pense que les auditeurs qui sont intéressés par le jeu vont guetter les occasions. En tout cas, c'est mon cas, j'attends qu'il baisse un peu de prix, et il est dans mon viseur, en tout cas, je l'attendais à moitié, et ça m'a donné envie.
Et rapidement aussi, pour la durée de vie, j'y pense, faut compter 10 heures pour le parcourir normalement. Si vous cherchez la merde, je pense que ça doit monter à 12-15, truc comme
oui,
ça.
Oui, donc ça reste relativement correct, compatible avec, on va dire, les sorties actuelles qui ont l'air d'être quand même pas mal chargées. Enfin, en tout cas, les mois qui viennent vont être pas
mais
mal
après,
chargés.
J'ai ça pour le côté un peu Metroidvania, sur les trucs que tu déverrouilles, et sur les espèces de tours de Zelda, on va dire. Les trucs d'open world, quoi. Les endroits où tu vas, tu débloques une partie de la map et il y a un combat là-bas.
Ouais.
Il y en a plein que j'ai pas fait, par exemple, de trucs comme ça.
Oui, c'est relativement c'est facultatif, quoi. Pas du tout, c'est pour les complétionnistes. C'était histoire de mettre du contenu. Après, j'ai l'impression qu'il fallait quand même justifier aussi un jeu qui se vend full price, quoi.
Et c'est ça aussi, rapidement dans les défauts. C'est vrai que le jeu est peut-être un peu trop long, il y a peut-être moyen de faire un peu plus court. Même si ils ont quand même redoublé d'ingéniosité. Genre j'avais peur, je me disais, attends, comment ça, 10 heures dans une forêt, de qui tu te moques? Au niveau des... Il y a un chouette travail qui est fait quand même pour rendre le jeu dynamique.
Et puis en termes d'environnement, visiblement, ça se renouvelle quand même, quoi. C'est pas uniquement...
Ça se passe quand même beaucoup de forêts, mais ils ont quand même fait le taf pour apporter des trucs.
Ouais, ok. Bon, écoute, merci beaucoup, je guette. Il est dans mon viseur, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, exclusivité Nintendo Switch, développée par Platinum Games. Voilà, c'est ça qui conclut donc la partie chronique jeux vidéo. Il est temps maintenant de passer à la dernière partie de l'émission et de conclure avec donc la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique.
Thank you.
bien, je vais commencer donc avec une série télé, donc pour les recommandations culturelles. Une série de Steven Soderbergh, qui est d'habitude pas trop coutumier des séries, puisque c'est un réalisateur pour le cinéma. Il a fait notamment Logan Lucky, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, avec Daniel Craig et Adam Driver, qui sont particulièrement savoureux d'ailleurs dans ce film. Un film de braquage, puisque donc Steven Soderbergh a eu sa période, film de braquage. C'est aussi le réalisateur de Ocean's Eleven, qui est voilà, un bon film. Non, là, on n'est pas du tout là-dessus en termes d'ambiance. The Nick, la série, ça s'appelle donc The Nick pour The Knickerbocker Hospital, puisque c'est une série hospitalière, hein, comme il y en a eu plein, on pourrait se dire, ces dernières années. Sauf que, et là, c'est le twist particulier et intéressant de The Nick, c'est que ça se déroule en 1901 à New York, et que donc, on est vraiment sur les prémices de la chirurgie moderne. C'est une période d'ébullition scientifique, c'est une période de découverte scientifique.
C'est pas avec le début de la chirurgie tout court.
Oui, non, mais le début de la chirurgie tout court, ouais, effectivement.
Ouais, parce qu'avant...
Ah oui, non, mais clairement, bah, on est encore dans cette phase un peu charnière entre la boucherie pure de chirurgie de guerre qui est absolument atroce et le développement de techniques qui permettent de sauver des gens. Donc je donne un exemple très concret. La série s'ouvre sur une scène mais absolument marquante et ultra magistrale d'opération de césarienne sur une femme enceinte qui a donc des problèmes, des complications avec sa grossesse. Et un des enjeux de la première saison, donc la série a que 2 saisons et elle est terminée. Ce qui est plutôt un bon point pour moi, parce que les séries en 12 saisons, j'ai plus le time pour ça. Mais bref, l'idée dans la première saison, c'est un des enjeux de trouver comment réussir à réaliser une césarienne sans perdre à la fois la mère qui se vide de son sang, forcément par l'hémorragie que provoque l'ouverture du ventre, et le bébé pour des raisons évidentes de rapidité de la procédure qui fait que le bébé meurt avant qu'on arrive à l'extraire. Donc il y a vraiment cet enjeu-là dans la première saison. C'est un exemple vraiment précis pour vous donner un peu les enjeux. Bon, ça parle aussi de choses de l'époque. Il y a la syphilis qui est évidemment une maladie assez atroce. J'ai d'ailleurs, par exemple, découvert que c'était une maladie qui avait des conséquences physiques absolument horribles. Par exemple, ton nez va s'effondrer, tu vas avoir un trou à la place du nez. Je vous invite à aller voir des images de photos de l'époque de gens atteints de la syphilis, c'est absolument horrible.
Vous tapez Voldemort sur Google.
Voilà, c'est exactement ça. Et encore, Voldemort, c'est moins malaisant parce qu'il a au moins... Il a quelque chose, il n'y a pas un trou, en fait.
Oui, il ressemble à Marine Le Pen. Oui.
Il ressemble exactement à Marine Le Pen. Non, là, vraiment, la syphilis, ça va te mettre un trou
à
la tasse du nez.
Ça te rassure, toi, bah bravo.
Et donc, non, c'est assez fascinant, en fait, de découvrir... La série a été réalisée avec un spécialiste donc de la médecine et la chirurgie de l'époque qui gère notamment les archives photos, puisque les photos, on faisait des photos déjà à l'époque, hein. C'est d'ailleurs le début du cinématographe, donc des premiers films, etc. On voit la première chirurgie filmée de l'histoire de la médecine dans la série. Donc le conseiller spécial, on va dire, sur la reconstitution est quelqu'un de particulièrement calé là-dessus, puisque c'est lui qui gère les archives photos de la chirurgie d'époque. Et donc bref, The Nick, c'est avec le mec des Fils de l'Homme en plus, que j'ai pas vu dans beaucoup de films, hein, ou dans beaucoup de séries, c'est un acteur tout à fait compétent. Je m'en mêle un peu les pinceaux parce que j'ai fini la série hier et ça m'a énormément marqué, en fait. C'est une série qui parle aussi beaucoup d'addiction. La série montre notamment, et je m'arrête pour le tunnel, que l'héroïne a été inventée pour pallier les addictions à la morphine, et que en fait on s'est rendu compte bien plus tard que c'était une substance tout aussi addictive, voire encore plus dangereuse que la morphine. Donc on voit vraiment les balbutiements. Et puis en vrai, c'est une série qui est full de gauche, parce que ça montre à quel point déjà le capitalisme avait compris qu'il y avait moyen de se faire du fric sur la médecine, et que du coup là on est sur l'opposition, la tension entre une médecine qui se veut vraiment au service des gens et le capitalisme qui essaye de mettre sa grosse main là-dessus pour faire du fric. On voit les prémices de l'eugénisme aussi, donc la théorie des races, la théorie de la race pure qui a ensuite imprégné l'Europe, qui est d'abord née aux États-Unis mais qui a ensuite imprégné l'Europe avec les conséquences qu'on sait, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bref, c'est un peu, il y a un peu la matrice. C'est un peu l'accumulation primitive du capital qu'on voit dans cette série à travers l'exemple du quotidien d'un hôpital au début du XXe siècle à New York. C'est vraiment ultra passionnant et vraiment j'ai adoré cette série, donc je vous la recommande. Disponible façon Tipeeak ou si jamais vous avez pris le Pass Warner qui a un abonnement en option sur Prime pour avoir notamment Succession, et bah vous avez droit à The Nick. Donc profitez-en si vous avez envie de voir Succession. La dernière saison est en cours de diffusion, c'est très bien aussi d'ailleurs. Profitez-en pour voir The Nick. Je passe la parole à Monique, désolé pour le tunnel, ça m'a vraiment beaucoup marqué.
Rapidement, sur le côté, la logique des races, ça arrive aux États-Unis.
Complètement, oui.
Ouais, il y en avait déjà pas mal en France. Hein. Pour cela, je vous invite à écouter Enquête de politique. C'est dispo sur France Inter, France Culture, je ne sais plus. France Inter, voilà. Et il y avait justement un double épisode sur le colonialisme, l'idée noire de la République. Voilà. Le premier épisode est justement sur le colonialisme et notamment sur... sur les enjeux qu'il y avait, notamment à gauche. En gros, c'était plutôt la gauche qui était... Dans ces bails-là, et il y avait déjà une logique bien raciale au 19e
siècle. Ouais, je me permets simplement de préciser que dans la série, ce qu'on voit, c'est vraiment l'eugénisme qui est la phase avancée, si en quelque sorte, des théories raciales, puisque là, l'idée de l'eugénisme, c'était vraiment de pratiquer de la stérilisation massive sur les populations jugées inférieures, impures, donc les personnes addictes, enfin les drogués, les homosexuels, les noirs évidemment, les gens atteints de maladies psychiatriques, etc., de les stériliser pour éviter que la race, entre guillemets, que voilà, l'espèce ne se contamine par ce genre de personnes et de préserver une sorte d'idée de race pure qui a donné ensuite évidemment le nazisme, etc. On n'est pas juste sur la théorie des races, on est vraiment sur la phase, on va dire, active de ça, ce qui est un pas supplémentaire dans l'horreur, quoi. Mais pardon, je t'ai coupé la parole, Monique.
J'en profitais juste pour plugger un truc, parce que ma vraie roco, ça va être très rapide, c'est Better Medicine, un album de The Best of the Worst.
Ouais. On est dans la médecine.
Exact. Oui, c'est vrai qu'il y a médecine dans le titre de l'album. Et du coup, ouais, c'est un groupe de ska-core. Voilà. Donc, globalement, pour les amateurs de Comeback Kid et de Defeater, globalement, vous rajoutez des petits contretemps, un peu de saxo, on est bien. Et des trucs aussi un peu plus pop sur certains morceaux. Voilà. C'est vachement cool. J'écoute pas mal ça en ce moment. Voilà.
Cool. Ça met la pêche, j'imagine.
Oui, c'est vrai que je dis comme Back Kid Defeater, c'est beaucoup moins brosson, du coup, et voilà. J'ai dit ska-core parce que bon, c'est toujours difficile à décrire ces styles de musique-là, mais sur Spotify, il y avait écrit ça, j'ai dit allez hop, c'est parti.
Allez, bah écoute, je vais écouter ça après pour me soigner de ma migraine, je crois que ça sera efficace, ça mettra la pêche.
Ça casse un peu la tête, mais vas-y, je préviens. Hein.
Ok, merci beaucoup Monique. Est-ce que Mikael a une recommandation pour cet épisode ?
Tout à fait. Moi, je vais vous parler d'une série de 2019, mais qui est dans l'actualité, puisque c'est une série Apple TV et que depuis le 20 avril, les abonnés Canal sont avec quasiment l'intégralité du catalogue d'Apple TV. Donc, c'est formidable.
Parce que... C'est ouf, ça ?
Ben oui, et surtout que je me disais, mais qui s'abonne à Apple TV ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Et pourtant, il y avait une série qui m'intéressait.
Attends, ouais. Est-ce qu'il y a la série... comment elle s'appelle ? Severance ? Dessus ?
Alors, je t'avoue que je n'ai pas encore regardé tout le catalogue.
Ah,
donc je ne saurais pas
te
dire.
C'est un truc de ouf, hein, ouais. Severance.
Juste Mikael, désolé. Désolé de te couper. Mais c'est juste que tu demandais, c'était le réseau de qui, les gens qui avaient Apple TV ? Mais en fait, la plupart des gens l'ont offert. Voilà.
Ah.
Genre quand tu achètes les appareils Apple, souvent ils t'en filent gratos.
Putain, mec, j'ai claqué une fortune dans mon Mac. Je crois que j'ai rien eu.
Ouais, vérifie. Mais désolé de te faire mal parce que du coup, t'as mis une fortune dans le Mac, une fortune dans, la, dans le truc Canal, alors que t'aurais peut-être pu croquer gratuitement.
Non, et non, parce que en vrai, l'abonnement Canal, je devais l'avoir pour le TMF, foot, ouais. Pour le foot.
Ah, il passe donc, en note de frais, ça va.
Non, parce que Canal, c'est une espèce d'enflure et en fait,
oui,
pour
c'est
mettre.
Plus cher.
En achat professionnel, ils considèrent que c'est automatiquement un bar. Donc en fait, moi je me suis dit, je le et en vrai c'est pas plus cher un peu, tu vois, c'est genre t'es un commerce donc ça a
t'inquiète,
rien à voir.
T'inquiète, je le paye au boulot, je sais.
Voilà, donc en fait moi j'ai un abonnement de moins de 26 ans avec une carte d'identité qui m'appartient pas, mais passons ça sous silence.
Non Bolloré, mais du coup si ça tu nous écoutes.
Ça m'a permis de découvrir The Morning Show qui est une émission, une série qui me fait envie depuis une éternité, depuis 2019, c'est avec notamment en tête d'affiche Jennifer Aniston, mais également Steve Carell, qu'on connaît pour The Office, et qui est une série absolument fabuleuse. En fait, je suis, alors j'en parle un petit peu tôt, les aléas du timing du podcast, mais je suis environ à la moitié de la saison 1. Il y a deux saisons qui sont sorties pour le moment, et en fait, le pitch de la série, c'est que c'est The Morning Show, la matinale numéro, enfin la matinale phare des États-Unis, qui est donc une émission de TV. Il faut imaginer un petit peu, merde, comment elle s'appelle, cette émission avec William Lemergy où il avait dit
Télématin.
Télématin.
Télématin,
voilà,
ouais,
c'est,
ouais,
le,
ouais, ouais.
C'est le Télématin cool des États-Unis.
Excellent.
Et en fait, la série commence alors que t'as un duo d'animateurs qui est constitué de Alex Levy et de Mitch Kessler, incarné donc par Jennifer Aniston et Steve Carell, qui éclatent parce qu'on découvre que Mitch Kessler aurait eu, on va dire ça sobrement, des comportements totalement inappropriés avec des collègues de travail. Donc il est complètement évincé de l'émission. Et déjà, le premier truc qui est assez intéressant, c'est que c'est une série post-MeToo. Elle parle énormément du mouvement MeToo, étant donné qu'un des sujets phares, bah, c'est le fait qu'un des animateurs s'est fait évincer parce qu'il a eu des comportements inappropriés.
Le wokisme.
Voilà. Et en vrai, je précise, j'emploie inapproprié parce que je suis rendu à un moment dans la série, au milieu de la saison 1, où bah, tu découvres plus ou moins, t'es pas exactement sûr de ce qu'il a fait, donc... Je sais pas trop quel terme employer, vu que je sais pas exactement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que je prends les pincettes, mais bref. Donc déjà, il traite ce sujet de manière hyper intéressante. Et puis, il parle également des médias et d'une manière plutôt pertinente avec ce qui est en train de devenir un de mes personnages les plus cultes des séries, alors que je l'ai vu que durant 6-7 épisodes. C'est le personnage de Corey Ellison, qui est interprété par Billy Crudup, qui ne me parle pas du tout en tant qu'acteur, mais qui le joue à la perfection, qui est en fait le boss de l'information de la chaîne de TV, et qui va un petit peu contrôler tout ça, malgré la prise de pouvoir de l'animatrice phare, et qui est d'un cynisme absolument total sur le monde des médias, et qui est juste fabuleux. Et je vous recommande chaudement cette série, qui traite plein de thèmes intéressants, d'une manière plutôt intelligente, alors que franchement, il y a bien des thèmes casse-gueule, et c'est vraiment très très complexe. Et il y a une réflexion que je me suis fait devant cette série, et c'est une réflexion que je ne fais jamais normalement, ce n'est pas forcément un truc qui a une importance pour moi de prime abord, mais c'est la qualité du cast. En fait, je trouve les acteurs incroyablement bien choisis par rapport aux personnages qu'ils interprètent. Je trouve que les acteurs sont vraiment bien choisis par rapport à leur physique, par rapport à leur manière de jouer, par rapport à la manière qu'ils ont de retranscrire le caractère à travers des mimiques, enfin... La série marche juste super bien là-dessus. Donc vraiment, The Morning Show, pour quiconque s'intéresse aux médias, mais qui a aussi envie de regarder une série qui parle un peu de phénomènes de société au sens large aux États-Unis, et évidemment, ça nous concerne également en France, je ne peux que vous dire de foncer.
Steve Carell, toujours au top. Hein. Moi, j'adore cet acteur.
Il est incroyable.
Ouais,
et,
c'est excellent. Je ne sais pas si tu as vu The Office,
dans...
mais c'est...
Bah si, oui, évidemment. Et là, du coup, tu l'as dans un rôle qui est beaucoup plus sérieux, avec un personnage qui est incroyablement complexe. Donc c'est assez particulier quand tu as été habitué à The Office, que tu t'attends à le voir sortir une connerie d'un moment à l'autre, d'autant plus qu'il est habitué à ses rôles. Je crois qu'il y a eu la série, c'est pas Space Force ou un truc comme ça, où il incarne le chef de l'armée spatiale, ou je sais pas, qui est une série comique, mais c'est pareil, où il a un rôle un peu à la The Office. Là, tu le retrouves vraiment dans un registre totalement différent, mais où il passe très très bien.
Ouais, mais il avait déjà changé pas mal son fusil d'épaule avec le film Vice, que j'avais adoré d'ailleurs. où il jouait le directeur de cabinet, un directeur de cabinet, un rôle très sérieux sous la présidence de Bush quand le vice-président, je crois, je sais plus comment était son titre, et s'appelait Dick Cheney. Bref, toute la période de guerre en Irak.
Enfin, c'est pour vice-président, non ? C'est pas ça,
là ? Ah bah oui, c'est ça. Eh bah, c'est effectivement,
oui, d'accord,
bien
ouais.
vu. Oui, c'est effectivement logique. Mais du coup,
film incroyable.
Ouais, ouais, film incroyable. Et il avait un rôle assez, assez sérieux dedans aussi, et il était assez juste. Il est vraiment très bon. Il sait s'adapter à tout type de rôle. C'est assez ouf. Donc bref, j'ai noté un morning show. En plus, mes parents sont abonnés Canal, donc j'ai droit à MyCanal sur la télé quoi, en cast.
Mmh.
Voilà.
Ouais, carrément.
Ouais,
c'est noté.
Bien, go go go.
Juste alors trois remarques. Enfin, pas la première, c'est que pour le coup, ouais, cette série, elle avait fait pas mal grand bruit quand elle était sortie. Une première remarque. Deuxième remarque, je remarque qu'il y a besoin de deux Américains pour faire un William Lémergie. Et troisième remarque, tu disais que ça parlait des États-Unis, mais ça nous concernait un peu. J'ai envie de dire pas tant que ça parce que Morandini, voilà.
Alors
voilà, c'est tout.
Oui, et en vrai, pour répondre premier degré, mais faire un pas de côté sur justement quelles sont un peu les différences États-Unis-France, c'est pareil. Il y a tout un jeu politique au départ avec. Parce qu'en fait, tu as deux animatrices, une nouvelle qui fait son entrée dans l'émission suite à un concours de circonstances et qui remplace donc le personnage qui est joué par Steve Carell. Et il joue vachement sur le côté « tu bosses pour une chaîne conservatrice et tout ». Et tu sens qu'il y a vraiment ce côté binaire américain où tu as les bails démocrates, républicains, t'es dans quel camp, qu'on retrouve pas trop en France, même si il y a le « t'es de gauche, t'es de droite », mais c'est pas exactement pareil. T'as deux trois trucs comme ça qui sont pas parfaitement transposables, mais c'est intéressant.
Pour le coup, c'est drôle que tu fasses ce lien avec la politique, parce que à gauche ou à droite, au niveau de se faire dégager de l'Assemblée nationale, voilà, c'est tout.
Oui, bon, allez, jetons un voile pudique là-dessus, hein, mais oui,
bah oui,
effectivement, tristesse.
Mais il y avait eu un film justement sur l'univers des médias. Alors c'est pas du tout sur le même thème exactement. Hein, mais...
Citizen Kane.
Comment? C'est quoi que t'as dit?
C'est une connerie parce que t'as dit un film sur les médias. Bah, je sais pas, il y en a plein.
Non non non, mais aux États-Unis dans un média conservateur, ça
Citizen
s'appelait.
Citizen Kane.
Non 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 non, c'est beaucoup plus
voilà,
récent.
Voilà, je refais ma blague.
Ah, le bâtard. Ça s'appelle Scandale, je crois. Le titre français c'était Scandale. En anglais, je crois c'était Bombshell. Bref, ça parlait justement du scandale de harcèlement sexuel / ce qu'on appelle promotion canapé, mais en gros les monnayés des promotions avec des faveurs sexuelles qui se déroulaient. Je crois c'était Fox News en plus. Donc des jeunes femmes qui rentraient à Fox News pour être présentatrices et qui obtenaient des promotions avec le grand patron, un vieux dégueulasse. Ça a été pas mal, c'était avec Charlize Theron et comment elle s'appelle, Margot Robbie. J'avais plutôt aimé ce film, bref, je le mentionne comme ça, voilà, à tout hasard, si jamais ça vous intéresse. Bref, je crois qu'on a fait le tour, les amis.
Tout à fait.
Bon, bah, et je pense qu'il est temps donc de remercier les amis patriotes et particulièrement Punished Snail, toujours au rendez-vous, et Haimok, qui est également producteur de l'émission. Voilà, bah, je crois que c'était l'essentiel. L'émission est donc maintenant terminée. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Mois prochain, mois de Zelda. Alors, il sera sorti donc le 12 mai. Si on fait l'épisode en fin de mois, on pourra déjà vous en parler, je pense. On n'aura peut-être pas fini le jeu. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec vous, de pouvoir y jouer déjà. Donc, ça sera très cool. Et puis, bah, d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Et à très vite. Des bisous.
Salut.